dès aujourd'hui.
Boulevard 102, la radio de Québec pertinente.
Écoutez ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité. Pendant ce temps-là, je vais aller voir ce qui se brasse sur Pornhub. Oh, il s'en brasse, des affaires!
Qui vous rapporte la nouvelle de façon objective.
La preuve irrévocable de l'existence du loup-garou en audio.
Et si tu crois que
des invités percutants.
Ben oui, petit coup de sympa.
Oh, oui.
Commence, le Martel. J'aurais peut-être un manager.
Une radio intellectuelle.
Moi, je suis scorpion.
Je suis capricorne.
Capricorne.
Je suis vierge.
Ça, on savait.
Facile.
Une radio spéciale. Boulevard 102.1. La radio spéciale. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir. Le soir. Le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Bon mardi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Mon nom c'est Yann Marceau, très content de vous accompagner pour la prochaine heure. Ce soir, on se fait un spécial conflit israélo-palestinien avec notre chroniqueur international qui est à l'international présentement. Son nom c'est Louis Gauthier, que vous avez la chance d'entendre sur les ondes de Boulevard depuis déjà un certain temps. Salut Louis!
Bonsoir Yannick, bonsoir Québec.
Merci d'être avec nous, tu es dans le secteur de Chicago, toi la ville des vents ces temps-ci.
Oui, la ville des vents, puis ce matin au réveil, il faisait 5 degrés. Là, ça s'améliore un peu, 15 degrés, mais tu sais, on est dans la région des Grands Lacs, là.
Ouais.
Pas, l'automne se fait sentir très rapidement, puis c'est l'endroit où, où naît à chaque début d'hiver l'effet des Grands Lacs, là, la grosse tempête de neige là, qui bloque la 401 d'un bord et la 90 de l'autre.
Ouais. Est-ce que Chicago mérite ce nom-là, la ville des vents?
Ah oui, ah oui, ouais. Oui, oui. Mais écoute, veux pas, c'est une ville où c'est vraiment le plateau. T'es près du, t'es près de l'Indiana, t'es près du Nebraska, t'es près de le Wisconsin. Tout ça, c'est le plateau du lac Michigan. Puis, il vente énormément sur le lac Michigan. Là. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de tornades dans le Midwest américain. C'est la porte du Midwest américain, l'Illinois.
Ouais.
Et Chicago en est la gardienne des clés.
Ben, j'ai passé un certain temps, moi, à Chicago, pas très longtemps, mais j'ai passé par là pour prendre la route 66. Puis,
oui.
Effectivement, il ventait beaucoup, mais je me disais, bon, c'est vrai que c'est un terrain qui est plat, mais je me disais, c'est peut-être en raison des buildings en hauteur, tu sais, les nombreux buildings qui font en sorte que le vent tourne constamment. Mais toi, tu me confirmes que c'est avec les lacs, là.
Ah oui. Ah oui, les lacs puis les prairies américaines, tant canadiennes, les vents sont prédominants. Écoute, ce sont des régions où, pour avoir demeuré au Manitoba quand même 10 ans de ma vie, il n'y a pas de printemps puis il n'y a pas d'automne. C'est l'été puis l'hiver. Okay.
Puis est-ce que au niveau de la sécurité, là, il y a ça quelques années, là, mettons, je te dirais, il y a 10 ans, on disait que Chicago, c'était pas super sécuritaire. Est-ce que ça s'est amélioré depuis les dernières années?
Bien, écoute, il y a encore des éléments de sécurité à surveiller dans le centre-ville de Chicago. Il y a encore beaucoup de crimes qui se fait. Il y a eu un meurtre ou un règlement de compte qui est arrivé au cours du week-end. Ça se passe dans le centre-ville, la fin de semaine, tard le soir. Alors, faut faire attention. Tu sais, je dis pas aux gens de pas venir visiter Chicago parce que c'est une très, très belle ville. Il y a énormément d'activités. C'est un coin touristique sans précédent. Par contre, on va pas promener le chien le soir dans le centre-ville.
Ouais, c'est ça. Est-ce que les gars et les filles qui font du transport, quand ils décident de se coucher, là, ils se couchent-tu à des endroits où c'est safe, où ils peuvent
oui,
même
oui.
Mettre leur vie en danger puis l'équipement qu'ils transportent en danger?
C'est une région, la région où je me trouve présentement, c'est une région qui est très propice au plateau du transport. Alors, tu sais, c'est quand même la 94, la 80, la 90, la 57, toutes ces routes-là qui convergent vers soit le sud-ouest, le sud, l'ouest ou l'est. peu importe où tu vas. Puis il y a énormément de relais routiers dans ces coins-là. Donc, c'est très facile pour un routier professionnel de se trouver un endroit pour se stationner le soir pour faire ses 10 heures de repos mandatoire, selon la réglementation américaine.
OK. Puis, ce qui doit être privilégié, c'est les endroits où il y a déjà des camionneurs qui dorment là. Donc, plus vous
c'est
êtes,
ça. Les,
plus vous êtes en grand nombre. Ouais, c'est ça. Plus vous êtes en grand nombre, plus c'est sécuritaire, là.
Oui, il n'y a pas de problème. Puis, je te dirais que les camionneurs ne sont pas trop dérangés. Tu ne déranges pas un camionneur qui a travaillé entre 11 et 13 heures dans sa journée, qui a besoin de son temps de sommeil et de repos. Puis, je peux te dire que les marteaux, puis les bâtons de baseball, puis les barres à clous sont pas loin.
Ouais, c'est ça. C'est des vrais hommes, ça.
Yes.
OK. Hey, on voulait parler ce soir, Louis Gaudier, du conflit israélo-palestinien. Puis quand on commence à faire nos recherches pour savoir de quoi on parle, Louis, moi, ça me flabbergasse. Là. T'sais, Québec a un petit peu plus de 400 ans, mais quand tu regardes ces conflits-là, c'est des conflits qui ont des milliers et des milliers d'années. C'est des choses qui se règlent jamais. Puis quand ça se règle pendant un certain temps, c'est parce que d'un bord ou de l'autre, ça a été encore plus cruel, ce qui fait en sorte que le peuple qui vient d'être battu va se tenir tranquille pendant un certain temps. Mais tu sais, les gens qui parlent de ce sujet-là doivent d'abord et avant tout aller s'informer sur ce sujet-là, parce que je vois énormément de désinformation sur les réseaux sociaux. Oui. Puis il y a quelque chose qui m'a flabbergasté, Louis Gaudier, en fin de semaine, c'est de voir les manifestations pro-palestinien, pro-Hamas. Je trouvais ça inquiétant, tu sais, qu'au Canada, qu'à Montréal, qu'à Toronto, ces gens-là soient heureux qu'il y ait des innocents qui se soient fait tuer, des femmes qui se sont fait enlever, des enfants qui ont été tués aussi. Je trouvais ça terrible de voir qu'au Canada, il y a des gens qui étaient pro-Hamas. Ça n'a comme pas de bon sens, Louis. Fait que aide-nous ce soir à avoir un éclairage un peu plus précis sur ce conflit-là?
Alors, je vais prendre le dernier point que tu as parlé, Yannick. Les conflits qui ont eu lieu cette fin de semaine au Canada, c'est quand même particulier. Parce que ce que le Hamas a fait ce week-end, on appelle ça un acte de terroriste. Selon le droit canadien, le terrorisme est punissable au sens criminel. Hamas est déclaré une organisation criminelle depuis le temps de Jean Chrétien. Donc, ce qui fait que le Hamas a agi comme terroriste et toute activité s'y reliant, ce sont des actes terroristes. Donc, ce qui s'est passé en fin de semaine au Canada, ben, ça devrait être puni dans mon livre à moi parce que ça va dans le sens de la loi canadienne sur la criminalité en, par rapport aux terroristes. Le Hamas qu'il a fait en fin de semaine. Il faut rappeler, on parlait beaucoup d'histoire, toi et moi, la semaine dernière, dans le dernier podcast, que c'est important de parler de l'histoire. Il faut reculer sur ce conflit-là qu'on a vu en fin de semaine sur l'année de 1967, lorsque Israël a décidé de commencer à composer avec ses territoires occupés pour agrandir son territoire israélien. Donc, on parle de la guerre des six jours à ce moment-ci. C'est à l'époque où Israël est allé prendre ce qu'on connaît aujourd'hui comme la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, le plateau de Golan. Alors ça, c'est tous des secteurs qui sont pas loin de la Jordanie et de l'Égypte. Six ans plus tard, en 1973, là, on a eu la guerre du Kippour. Ça, c'est une attaque surprise de coalition faite par l'armée égyptienne et l'armée syrienne pour reprendre le territoire du Sinaï qui avait été occupé à l'époque. Puis là, ben, ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est qu'on a marqué, à chaque année, on célèbre le Yom Kippour qui correspond un peu avec le Ramadan du côté musulman. Le Yom Kippour, ça, on se rappelle, c'est dans la traditionnalité juive, on se rappelle, pardon, les erreurs du passé, tout ça, puis ça donne l'image de ce qui va se passer au cours de l'année du calendrier juif au niveau du peuple juif. Alors, ce qui est arrivé, le Hamas qui est un groupe terroriste de droite islamique, bien, eux autres, ils ont décidé, puis c'était très coordonné, ils ont décidé de frapper dans une fête, un anniversaire, le 50e anniversaire de 1973, ce grand conflit-là arabo-israélien qui avait eu lieu à l'époque. Puis on est venu célébrer ça en frappant très fort, en faisant plus de 1000 morts et c'est pas terminé. Là, c'est sûr que les Israéliens réagissent énormément. Les Israéliens vont décider une fois pour toutes d'éradiquer la bande de Gaza, ce qui n'arrivera pas, parce que c'est quand même partagé avec l'Égypte, un petit peu sur la frontière. Les Israéliens ont dit ce matin de bonne heure, ils ont averti la population civile de Gaza de se diriger vers l'Égypte parce que ça allait frapper. D'ailleurs, en début d'après-midi aujourd'hui, les Israéliens, c'est déjà la nuit là-bas, ont déjà frappé de façon très sévère deux points stratégiques à l'intérieur de la bande de Gaza, tuant deux commandants du Hamas, ce qu'on va appeler des commandants. Bon, le Hamas. Tu parlais du conflit israélo-palestinien. Je te dirais, Yannick, que c'est un terme qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui. Parce que l'organisation de la Palestine n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Et le Hamas, c'est une branche armée d'une multinationale qu'on appelle l'État armé islamique, financée par le gouvernement iranien. Un geste comme ça ne peut pas avoir été commandé par les gardiens du Coran, les gardiens du Coran étant les Iraniens. À l'intérieur du Coran, tu as la loi, ce qu'on appelle la loi du Sola, c'est-à-dire la loi juridique du Coran, sur laquelle se bat l'islam, sur lequel c'est le Coran de l'islamisme, la loi juridique du Coran, le Sola, puis ça leur donne le droit de frapper, peu importe. Et le terroriste, eux, leur arme démoniaque qu'ils utilisent tout le temps, c'est d'attaquer des populations civiles. Ça a tout le temps été fait. On n'a qu'à penser au Bataclan, on n'a qu'à penser aux tours jumelles, on n'a qu'à penser à plusieurs événements qui ont frappé comme ça. Mais ces gestes-là sont toujours sanctionnés par l'Iran. C'est l'Iran qui a fourni les armes. Les armes qu'ils ont utilisées, c'était quand même sophistiqué. On se demande comment ça a pu rentrer là, lorsque la bande de Gaza, du côté maritime, c'est-à-dire par la mer Méditerranée, tout est protégé, c'est quand même proche du port de Tel Aviv, alors on ne peut pas faire entrer absolument rien là. Puis on a des ententes, on va dire, amicales ou de paix avec nos voisins de la Jordanie et de l'Égypte. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a 1400 km de tunnels en Égypte pour traverser dans la bande de Gaza.
Oh, OK.
Et c'est des... Oui, et c'est des tunnels même où on peut passer en Jeep, là, ce qu'on peut passer en motorisé là-dedans, porter de la... Alors, vois-tu qu'est-ce qu'on est en train de voir, là? C'est qu'on a notre voisin, l'Égypte, qu'on n'aura jamais de problème avec, là, tu sais, juste on s'entend bien, mais en dessous du tapis, ben ils passent des armes, puis c'est des armes qui sont de fabrication russe et de fabrication iranienne. Alors, c'est rentré par là, puis c'est pour ça qu'on a vu une force de frappe aussi surprenante samedi matin pour aller frapper à la frontière. Maintenant, la façon dont les Israéliens vont agir pour se venger, on va dire. Eux, ils vont rentrer là, puis c'est sûr qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Ce que Joe Biden, le président des États-Unis, a dit aujourd'hui, l'importance, c'est de sauver les otages. Bien, moi, je vais rajouter à ça, on va sauver les otages qui vont être encore vivants ou qui n'auront pas été exécutés. Mais il va y avoir énormément de dommages collatéraux dans ce conflit-là. Ouais,
parce que le Hamas se cache dans des endroits où il y a des civils, là, parce qu'ils savent très bien que si Israël veut frapper, ils n'auront pas le choix de créer des dommages collatéraux, malheureusement. Puis ça va faire en sorte que ces images-là vont dire « Ah, ben vous voyez, Israël aussi, quand Israël frappe, il tue des innocents, il tue des enfants, il tue des femmes. » Le Hamas se tient au travers de la population civile, se cache au travers de la population civile.
Bien, ça, c'est absolument véridique ce que tu dis là, Yannick, parce que c'est l'objectif premier des terroristes de frapper là où ça va mal dans l'imaginaire public. Puis c'est sûr que plein de civils... Le message que les Israéliens ont fait à la population civile de Gaza de se déplacer vers l'Égypte, ça n'arrivera pas, parce que le Hamas va garder la population proche pour se servir de ces êtres humains-là comme boucliers. Puis c'est pour ça que je te dis que les dommages collatéraux vont être très, très importants et imposants.
Ils sont inévitables.
Dans ce conflit-là.
Ouais.
Oui. Puis maintenant, ce qu'il faut juger, la façon dont Israël va agir sur la bande de Gaza, ça va déterminer qu'est-ce qui va se passer un peu plus au nord-ouest d'Israël, c'est-à-dire les territoires occupés de Cisjordanie. Parce que ce secteur-là est voisin du Liban. Au Liban, on retrouve qui? Le Hezbollah, une autre organisation réputée être terroriste, qui a une énorme emprise sur le Liban. Puis eux vont surveiller ça. Parce que si on frappe trop fort à Gaza, parce que les Israéliens, là, on risque de voir le plus méchant des Israéliens dans ce conflit-là. Alors, si c'est trop méchant, bien, ça se peut que ça frappe encore en Cisjordanie aussi fort qu'en 2006. Et que là, à ce moment-là, l'armée israélienne est très capable. Juste son produit intérieur brut démontre qu'elle est très riche, elle a énormément de moyens. Puis ce n'est pas l'aide militaire internationale dont a besoin Israël, c'est l'appui politique international de ses alliés dont elle a besoin. Parce qu'au niveau militaire, au niveau armement, elle est très sophistiquée. Pour vous donner un exemple, là, ce sont des ingénieurs israéliens qui sont allés faire la dernière version des Mirages français en France. Alors, c'est des gens qui sont très, très avancés technologiquement. Moi, je peux dire qu'ils peuvent frapper avec leur superpuissance, les fameux jets qu'ils ont. Ils peuvent frapper avec un tir de précision longue portée, aussi précis qu'une pointe d'aiguille de fil à coudre.
Est-ce que le Hamas, parce que c'est des questions d'auditeurs que j'ai eues sur l'heure du midi, puis je me suis dit, tiens, je vais poser des questions à Louis. Est-ce que le Hamas a une grosse force militaire? Est-ce qu'au niveau de l'armement, là, ils peuvent avoir eu accès à du nucléaire ou quelque chose du genre, ou jamais l'Iran leur donnerait une force nucléaire?
Écoute, tout ce que tu dis là, ça peut être possible. Puis oui, le Hamas a une puissance d'armement parce qu'elle fait partie d'un regroupement qui s'appelle l'État islamique. Je te parle de l'Hezbollah, je te parle du Hamas, je te parle de l'État islamique, je te parle des talibans. Tout ça est regroupé dans une multinationale qui s'appelle l'État islamique, dont le PDG est l'Iran. Alors oui, ils ont une puissance de frappe qu'ils peuvent avoir. Et n'oublie jamais, Yannick, le but ultime de l'Iran, c'est d'éradiquer l'État d'Israël. C'est de l'effacer du bord de la carte, parce que pour eux, c'est Israël, c'est une incursion malsaine à l'intérieur même du monde arabe.
Parce que, est-ce que c'est Jérusalem qui est en cause? Parce que, bon, l'histoire, tout aurait débuté à Jérusalem, là. Est-ce que c'est ça qui est en cause? Est-ce que c'est dans les écrits? C'est la raison pour laquelle ils se disputeraient ces territoires-là? Ils veulent sortir les Juifs de Jérusalem?
L'État d'Israël, le territoire de l'État d'Israël, là, ce qu'on voit sur la carte, là, ça, c'est considéré comme une terre sainte. Selon les écrits musulmans, cette terre-là aurait dû demeurer, entre deux parenthèses, vierge.
Voilà. Okay.
Ce qui est arrivé, le peuple hébreu de l'époque, les Juifs, ont suivi les lectures d'Abraham, de tout le monde, pour se rendre dans la terre promise. Et la terre promise était cette terre vierge-là, c'est-à-dire le plateau, la péninsule du Sinaï, le plateau du Golan et tout ça, c'était la terre promise. Quand tu vas à Jérusalem, je ne sais pas si tu as déjà été, mais quand tu vas à Jérusalem, tous les courants religieux sont représentés. C'est-à-dire l'Église orthodoxe juive, l'Église catholique et également l'islam. Tout le monde se retrouve dans ce coin-là. Le mur des Lamentations, c'est la même chose. Tout le monde a son coin de mur pour prier. Puis ce qui est remarquable là-dedans, c'est qu'on pratique trois religions différentes pour le même Dieu qui porte trois noms différents, mais qui représente une seule personne. Donc, on se bat toutes pour la même personne, que ce soit Yahvé, Dieu ou Allah, mais on interprète pas de la même façon les Écritures qu'on nous a enseignées au fil des millénaires.
OK. Donc, pour eux, que les Juifs soient à cet endroit-là, c'est totalement inacceptable.
Et pour les Israéliens, c'est inacceptable qu'on essaie d'envahir la terre promise.
Et Israël est la seule démocratie dans ce secteur-là? Tu sais, exemple, si on prend, parce que j'aime beaucoup voir les droits des femmes, tu sais, comment ça évolue à travers le monde. Puis Israël, ben, les droits des femmes sont reconnus, tu sais, les femmes sont considérées les égaux des hommes à Israël. Mais si tu sors d'Israël, je veux dire, la femme est considérée pratiquement comme un bien meuble, là.
Bien, Israël, c'est l'État démocratique du Moyen-Orient. Écoute, juste à regarder autour, là, c'est l'Arabie saoudite, c'est le, t'as la Jordanie, t'as le Liban, t'as l'Égypte, t'as un paquet de pays, c'est entouré de pays musulmans autour d'Israël. Maintenant, tu sais, on parle d'un pays musulman qui est peut-être la chasse gardée de l'héritage musulman, ça se trouve être l'Arabie saoudite. On était sur le point d'avoir une entente de réciprocité, une genre d'entente de respect des territoires avec l'Arabie saoudite et Israël. On voit ce conflit-là. Présentement, il y a un pays musulman qui ne s'est pas prononcé sur ce qui est arrivé au cours du week-end, ça se trouve être l'Arabie saoudite. Et également, il y a la Jordanie et l'Égypte qui ne se sont pas présentés. Parce que, je te répète que la Jordanie et l'Égypte ont déjà des ententes avec Israël, de non-agression. Et il y en a une qui est en train de se préparer avec l'Arabie saoudite. Est-ce que c'est en réaction au fait de cette entente entre l'Arabie saoudite et Israël que le Hamas est intervenu? Alors, ça arrive, on ne sait pas les questions, la question se pose, mais le fait que le Hamas soit intervenu de cette façon-là aussi atroce, c'est parce qu'elle a eu le get to go de l'Iran. Parce que c'est l'Iran qui a donné le call pour faire ces attaques-là. La même façon que l'Iran, lors du retrait des troupes en Afghanistan il y a 3 ans, est intervenue. Elle est intervenue comment? T'as 3 groupes qui existent en Afghanistan, c'est-à-dire les Kurdes au nord, t'avais l'ISIS qui était plus au sud avec les frontières du Pakistan, t'avais les Talibans. Ce sont 3 groupes qui traditionnellement ne travaillent pas ensemble. Ils saillissent parce qu'ils ont eu des batailles de territoriales dans l'histoire de l'Afghanistan sans précédent. Alors pourquoi ces 3 groupes-là se sont retrouvés main dans la main pour reprendre le contrôle de l'Afghanistan? C'est parce que l'Iran les a guidés, l'Iran les a armés, l'Iran les a organisés pour reprendre le contrôle islamique de l'Afghanistan. Et du jour au lendemain, on a vu ce qui est arrivé. Les femmes sont sorties des universités pour reporter le voile et retourner dans les maisons. C'est ça qui est arrivé. Le droit des femmes ont été carrément bafoués, effacés et tout ça. C'est ce qui est arrivé en Afghanistan. Donc, on voit la façon dont l'Iran, qui se dit le gardien du Coran, veut appliquer sa façon de gérer la région des frères musulmans. Et c'est important pour eux que l'État d'Israël, chaque occasion qu'ils vont avoir d'éliminer ou de faire mal à l'État israélien, ils vont le financer, ils vont s'en occuper, ils vont le faire. Maintenant, en fin de semaine, je t'ai parlé de la fête du Yom Kippour.
Oui.
Pourquoi qu'ils ont été pris de court? Parce que c'est une fête civile très importante. Tout ce qui est service civil a été diminué. C'est comme en fin de semaine, nous, on avait l'action de grâce. Là, les banques et les services fédéraux et provinciaux étaient fermés. Puis, on reproche beaucoup au Mossad, c'est-à-dire le service, l'agence des services secrets israélien, le Mossad, n'est pas intervenu, n'a pas vu venir ça. Mais souviens-toi que c'est un pays démocratique, Israël. Ils ont affaire à certaines restrictions budgétaires, comme aux États-Unis, comme au Canada. Puis à un moment donné, les services de renseignement et tout ça, ils ont eu des coupures budgétaires. Ce qui est arrivé en fin de semaine, ça vient de montrer quelle importance que le Mossad a à l'intérieur même de l'appareil gouvernemental. Eux n'attendent qu'une occasion comme ça pour prendre des actions de renseignement et de frappe contre l'Iran. Alors, quand je te parle de la situation géopolitique, qu'est-ce que ça peut représenter pour le futur de la région, de la situation géopolitique dans ce secteur, politique dans ce secteur-là? Bien, ça démontre juste à quel point ça peut venir déclencher des vieux conflits, des vieux désirs de réalisation. C'est ce que ça veut, c'est ce que ça signifie, ce qui s'est passé en fin de semaine.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Louis Gauthier? J'ai vu qu'il y avait certains partis politiques au Québec, dont Québec solidaire, et ou d'autres au fédéral, dont le Parti libéral, qui ont tardé à dénoncer les actes absolument ignobles du Hamas et tardé à qualifier ces actes-là comme étant des actes terroriste? Qu'est-ce qui fait en sorte que il y a des gens qui vivent parmi nous qui ont une certaine empathie envers le Hamas, alors qu'à mes yeux, à moi, Louis, c'est inacceptable d'avoir de l'empathie envers des groupes terroristes qui tuent des innocents de façon très, très lâche, là. Pourquoi on trouve preneur ici au Canada pour ces gestes-là?
Bien, écoute, on va commencer par Justin Trudeau. Justin Trudeau, en fin de semaine, a été très vite. Je le félicite pour ça parce qu'il a repris la balle au bon. Sa petite gaffe, là,
la semaine passée.
Ouais. Sa petite gaffe, ben, il l'a récupéré en disant que c'était un acte terroriste. Donc, il a carrément nommé le Hamas un groupe terroriste. C'est un acte sauvage de terroriste qui a été causé. Puis, il n'avait pas vraiment le choix parce que son mentor, Jean Chrétien, a fait de ce groupe-là une organisation terroriste qui est reconnue au niveau de la loi canadienne. Donc, il ne pouvait pas aller à l'encontre de l'enseignement qui a été donné par son mentor. Ça, c'est sûr et certain. Donc, puis en plus que ça avait fait sourciller un petit peu les Israéliens, l'histoire du papy nazi à la Chambre des communes, bien là, il est allé regagner un petit peu la faveur des Israéliens à ce niveau-là. Maintenant, pour des groupes comme Québec solidaire, des groupes de gauche, ce sont des groupes qui, historiquement, sont tout le temps dans un esprit rébarbatif face au pouvoir, face à ce qu'on va appeler aux plus grandes communautés, face à une démographie organisée. Puis, on a fait la même amalgame que tu as fait en début d'émission en disant que c'est un conflit israélo-palestinien. Donc, on se souviendra de l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat dans les années 70. On est loin de là aujourd'hui. On est loin de là. Yasser Arafat, à l'époque, lui, ce qu'il voulait, c'est de créer un État palestinien avec les territoires occupés. Lorsqu'on a réussi à faire, bien écoute, on a la Cisjordanie qui est quand même assez indépendante, puis on a la bande de Gaza qui avait quand même une certaine indépendance également, même s'il y avait une surveillance qui était faite. Donc, c'était un genre de gain. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est en dehors des dogmes d'enseignement politique de l'Organisation de libération de la Palestine. C'est carrément hors de ça parce que c'est un acte de barbarie, de sauvagerie, ce qui est arrivé. On s'est pas gêné. Puis ça, ce qui est dangereux, c'est que l'armée israélienne, tu sais, je suis pas en train de lui donner là, le bon Dieu sans confession là, à Israël, mais c'est le genre d'événement qui va faire sortir vraiment le méchant qu'ils ont en eux. Puis eux, ils s'arrêteront pas pour dire lui, on le frappe pas, lui, on le frappe, lui, on le frappe pas. Ils vont rentrer dans le tas. Ça va être de façon stratégique, mais c'est sûr qu'ils lâcheront pas le morceau.
Non, c'est ça. Ils vont essayer de donner un exemple très clair au départ, c'est-à-dire vous ne vous attaquez pas aux nôtres parce que sinon, la punition, le châtiment va être exponentiel 10. Là.
Écoute, la protection de la terre promise est la loi numéro 1 de la loi juive. Alors, tout va être fait pour protéger la sécurité intérieure de la terre promise.
Ouais, ça en dit long. Est-ce que le Canada pourrait s'immiscer dans le conflit? Est-ce que les États-Unis pourraient s'immiscer dans le conflit en envoyant de l'argent, des armes, des soldats? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une escalade?
Si, dans ce genre de conflit-là, si on se reporte à la guerre des six jours, à la guerre du Kippour en 73, on a vu que tout à peu près les pays de la Ligue arabe se sont rangés derrière l'Égypte et la Jordanie pour faire le conflit. Par contre, ce qui était en retrait, ben, t'avais l'Union soviétique, la Chine, mais les Américains étaient du côté israélien puis ils ont fourni des armes puis de l'argent. Comme je te disais en début, les Israéliens n'ont pas besoin d'armes, n'ont pas besoin d'argent parce que va voir leur PIB, tu vas comprendre. Au niveau de la force terrestre, des militaires, ils ont besoin d'être bien équipés. parce que là, on fait sortir quand même 300 000 civils qui reviendront, qui vont faire partie de la, ce qu'on appelle l'armée de réserve. Donc, ils vont prendre les armes. Puis ça, on parle d'individus âgés de 17 ans et demi jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, il va falloir s'assurer qu'ils soient bien organisés, bien armés, bien vêtus, bien préparés, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec la débandade qu'on a eue en 2006 lorsque le Hezbollah a voulu faire une incursion en Cisjordanie, puis les Israéliens ont voulu les prendre de court en rentrant dans le tas, puis ils ont carrément perdu parce que le Hezbollah était très bien équipé à cette époque-là en 2006. Puis c'était déjà des éléments de l'armée État islamique qui s'y retrouvaient. Donc, les Israéliens ont eu l'air un peu fous à ce moment-là, puis ont reculé vite. Donc, on ne veut pas revoir le même épisode de 2006 en 2023-2024. Et c'est sûr que l'armée de réserve va être très bien équipée. Maintenant, cet appui-là va sûrement venir des Américains, parce que là-dedans, il y en a un qui vient de tomber deuxième, puis je n'ai pas besoin de te le dire, il s'appelle Volodymyr Zelensky. Puis le 100 milliards de dollars de budget qui était offert par les États-Unis, parce qu'on parlait de l'étude des budgets la semaine dernière.
Ouais.
D'ailleurs, Kevin McCarthy a été tassé à cause de ça. Ben, ça se peut que les valves monétaires vers l'Ukraine soient fermées momentanément pour ouvrir celles vers Israël.
Parce qu'on mettrait une priorité sur Israël?
Ah, ça, c'est sûr et certain.
Et est-ce qu'un jour, les États-Unis pourraient rentrer en conflit avec l'Iran, où il y a trop d'argent en jeu pour que ces deux pays-là puissent rentrer en conflit? Parce qu'on va se le dire, bon, d'un bord, l'Iran fournit des armes et probablement de l'argent à un groupe terroriste, et de l'autre côté, ben, Israël veut se défendre, va peut-être besoin d'avoir des ressources. Les États-Unis, bon, le lobby israélien aux États-Unis est assez reconnu, là. Il y a énormément...
Bien, reconnu. Est très fort parce que c'est le bailleur de fonds des deux plus grands partis aux États-Unis.
Exact. Donc, tu sais, nécessairement, les États-Unis vont être tentés de les aider. Est-ce que ces deux pays-là pourraient un jour rentrer en conflit, l'Iran ou les États-Unis, où il y a trop d'argent en jeu, jamais qu'ils vont entrer en conflit direct? Ça va plutôt être indirect.
Le jour où les États-Unis entreraient en conflit associé avec Israël contre l'Iran, c'est le jour où on va assister à la naissance de la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que l'Iran a ses alliés, puis c'est pas rien, là. Ils ont les Russes comme alliés. C'est de savoir dans l'axe où vont se retrouver les Chinois, où vont se retrouver certains d'autres, mais principalement les Chinois. Mais l'Inde qu'on voyait dans l'axe a démontré de façon très claire son appui envers Israël. Donc, on peut sortir l'Inde de l'équation. On peut peut-être sortir le Pakistan de l'équation. Mais si jamais on voyait les Américains, comme l'Angleterre, comme la France, intervenir dans un conflit armé contre l'Iran, ben moi, je t'annonce qu'on va assister à la naissance de la Troisième Guerre mondiale. On va peut-être laisser aller les Israéliens, parce que, comme je te disais tantôt, ça vient de donner raison au Mossad d'infiltrer l'Iran et de frapper et de faire des missions de frappe sournoises en Iran pour les ralentir, parce que ça, c'est les méthodes d'application du Mossad, des services de renseignement israéliens. Puis, les grands gagnants, s'il y a des gagnants là-dedans, là, au niveau stratégique, ce sont les gérants des services secrets israéliens, le Mossad. Parce que eux, là, ils vont se dépoussiérer puis ils vont frapper fort.
Est-ce que les Palestiniens ont des conditions de vie qui sont absolument misérables comparativement à ceux qui sont à Israël?
Tout le discours que tu vois présentement concernant les conditions de vie, ce n'est que politique. Ce n'est que j'en veux plus. Puis pour en vouloir plus, je vais dénoncer ce que tu me donnes pas assez, selon mes principes. C'est ce qui arrive. Parce que c'est quand même 2,1 millions de populations que tu retrouves sur la bande de Gaza. C'est pratiquement le double que tu retrouves en Cisjordanie. C'est quand même des populations qui sont organisées, là. Quand tu regardes Toronto, là, c'est 2,7 millions. Alors, on n'est pas loin de la population de Toronto, là, dans la bande de Gaza. Si tu vas à Toronto, là, est-ce qu'on s'entend qu'ils sont quand même bien organisés?
Oui, je sais.
Mais c'est un peu... Mais c'est la même... Tu sais, il n'y a pas de blocus, il n'y a rien de fait pour éviter les denrées, ce qu'on a de besoin pour te vêtir, manger, vivre, le travail, ça existe.
L'approvisionnement en eau, la nourriture, même l'électricité, il n'y a pas de problème. Les Israéliens ne se mêlent jamais de rien.
Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Okay. Le seul blocus qui existe, c'est au niveau de l'armement. Il y a un contrôle qui est fait au niveau des frontières et tout ça. C'est pour ça que tu as un blocus maritime aux alentours de Gaza.
Fait que c'est une propagande qui est assez forte, parce que si ça arrive en Amérique puis que nous, on se fait dire que les Palestiniens ont de mauvaises conditions de vie, c'est pas vraiment évident, l'approvisionnement en eau, la pauvreté, les meurtres, pas les meurtres, mais les naissances qui donnent lieu à des morts de femmes, morts d'enfants, ça, c'est juste de la propagande.
C'est de la propagande, puis... Tu trouveras toujours des gens, Yannick, qui sont pro-palestiniens et pro-israéliens et contre les Israéliens puis contre les Palestiniens. T'en auras toujours. Puis les éléments qu'on a vus dernièrement, fin de semaine, rapidement, là, lorsqu'on a vu des gens se faire exécuter, pour moi, que tu viennes de peu importe le pays d'où tu viens, lorsque tu te fais exécuter sauvagement, ça ne mérite pas. Puis ça, écoute, là, tu parles à quelqu'un qui a quand même des études poussées en droit international, puis peu importe, le droit individuel doit être protégé et tu ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre de tuer impunément une autre personne de façon aussi barbare et sauvage, c'est passé en fin de semaine. Que ce soit un Israélien, que ce soit un Palestinien, que ce soit un musulman, peu importe qui, ce qui est arrivé, les génocides qu'on a vus dans l'ex-Yougoslavie, c'est la même chose. Ça ne se fait pas, ça se doit d'être dénoncé et non célébré. Puis malheureusement, ce qui est arrivé en fin de semaine, même à Montréal, je dénonce ça. C'est plate, là. Eux autres, là, ils se sont fait photographier pareil comme dans le temps des mariages de Yes.
Ouais.
C'est ça qui est arrivé.
Ouais.
Eux autres, ils se sont fait photographier. Je peux te dire une chose, que les services de renseignement canadiens, les services d'indices canadiens, les services d'intelligence canadienne, tout le monde, quand on voit lever ça, fais-toi-en pas qu'ils sont fouillés jusqu'à moelle épinière, on sait à qui on a affaire.
Bien, tu sais, je me dis qu'un jour où on entrera dans un conflit, tu as parlé tantôt de la Troisième Guerre mondiale, bien, les gens qui célébraient dans les rues, là, à ce moment-là, deviendront nos ennemis, là. Et on les aura acceptés chez nous, là.
Bien, ils vont peut-être bien faire profil bas à ce moment-là. Parce qu'ils vont se rendre compte, on n'a pas une histoire de guerre, là. Puis moi, je pense à des collègues, à des amis vétérans militaires aujourd'hui, lorsqu'ils voient ces choses-là, ces gens-là sont désolés parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont décédés pour défendre nos valeurs démocratiques canadiennes partout dans le monde. Puis il y a des gens qui vont vivre avec des séquelles avec lesquelles ils vont mourir un jour. OK? Ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques. Alors, quand ces militaires, les vétérans, voient ces actions-là qui se passent à l'intérieur même de notre territoire, eux ne peuvent être que désolés de voir ça parce que ces gens-là ne savent vraiment pas ce qui se passe outre-mer, des conséquences néfastes que ça peut apporter une démocratie. Écoute, te faire réveiller un samedi matin par des sirènes, t'as une demi-heure pour évacuer, là. Il n'y a pas personne qui a vécu ça, à part avoir été victime d'un incendie. La preuve, là, cet hiver, on a eu des incendies, là, quand il y a eu les grosses pannes électriques, là, au Québec, là, bien, les gens n'ont pas eu le temps de sortir, là. Il y a des gens qui sont décédés puis qui n'ont carrément pas eu le temps de sortir. Alors, imagine quand tu as les sirènes qui te réveillent, puis ça veut dire, en Israël, tu as une demi-heure pour te trouver une place pour te cacher.
Louis, tu vois comment cette sortie de conflit-là? Est-ce que les États-Unis devront s'en mêler? Est-ce qu'ils vont... Il y a eu un pays qui va se proposer pour essayer de faire l'intermédiaire entre les deux puis conclure un accord de paix. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va arrêter ce conflit-là puis ça ne dégénérera pas? Est-ce que Israël va devoir frapper extrêmement fort, ce qui fait en sorte que le Hamas va se retirer? Parce que j'ai vu qu'il y avait des têtes du Hamas qui commençaient à sauter, là. Les Israéliens Israéliens savent sont où les grands chefs du Hamas. Donc, ils ciblent en premier les grandes têtes. Tu vois ça comment, la sortie de crise?
Écoute, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, se doit d'intervenir de façon forte parce que ce qui est arrivé en fin de semaine, ça l'a affaibli son leadership. Maintenant, de la façon dont ça va se régler, ça va peut-être se régler comme il y a 50 ans, en 1973, quand il y a eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a mis un terme à tout ça. Parce que, veux pas, c'est une poudrière, cette région-là du monde. Ça l'a démontré au cours des dernières, des millénaires. Puis, dans les 50 dernières années, c'était quand même, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentatives d'accords de paix. Puis, ce qui est arrivé en fin de semaine, bien, c'est une attaque, ce qu'on appelle d'un regroupement de loups solitaires. Puis, si on est capable d'éradiquer rapidement la menace que ces gens-là ont exécutée samedi pour éviter que ça se propage partout, bien écoute, ça risque de passer par l'ONU, comme ils l'ont fait il y a 50 ans.
OK. Puis est-ce qu'on aura à intervenir? Est-ce que le Canada pourrait ramener les casques bleus puis aller là pour essayer de faire la paix?
Avec quel argent?
Ben, je sais pas. Le gouvernement de Justin Trudeau nous a habitués à être dans le rouge. Peut-être qu'on pourrait trouver quelques deniers pour envoyer nos militaires là-bas. Qui sait?
Écoute,
il fut un temps où les casques bleus étaient très bien vus là, à travers le monde.
Je pourrais te faire une chronique un autre tantôt sur la façon de réaménager les postes comptables du gouvernement canadien, mais c'est sûr qu'aller couper $1 milliard dans la défense canadienne, c'est pas l'idée du siècle. Quand il en manque 10 milliards de budget, puis qu'il manque 30 à 40 000 personnes, puis que nos équipements, là, c'est éternu, puis ça tombe en morceaux.
Exact. Okay? Mais est-ce que c'est une... Parce que je comprends là, qu'ils doivent couper à certains endroits, mais actuellement, on regarde le conflit entre l'Ukraine puis la Russie. Là, il y a un autre conflit qui vient de repartir entre Israël puis le Hamas.
Le monde arabe.
/Palestine/monde arabe. De couper dans la défense, je veux dire, c'est complètement ignoble comme façon de procéder. Là. Déjà que l'équipement pour ce qui est de nos soldats de l'armée canadienne est déficient, de voir que le gouvernement de Justin Trudeau enlève 1 milliard, c'est de la folie pure et simple.
Yannick, pour un pays, peu importe le pays, l'un des budgets importants, l'un des postes les plus importants de son budget devrait toujours être sa sécurité. Ça comprend l'armée, ça comprend la police fédérale, ça comprend les services de renseignement. Aux États-Unis, c'est pas rien. OK? C'est une grosse partie du budget, le budget sur la sécurité intérieure, sécurité nationale, l'armée, tout ce que, tu sais, on va appeler ça le budget sur la sécurité. Le Canada devra faire de la même chose parce qu'on a de grandes frontières à protéger. Puis si on les protège pas, comme ça arrive dans le Nord, mais on a les Russes, on a les Chinois, tout le monde vient nous écœurer, puis on pense que les Américains sont toujours là pour nous aider. Les Américains sont pas là pour nous aider. Les Américains sont là pour protéger les territoires nord-américains de l'Antarctique et de l'Arctique. Puis ça, c'est très, 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 très important pour eux parce qu'on ne veut pas avoir des incursions de Russes, puis on ne veut pas avoir des incursions de Chinois à la même époque qu'on ne voulait pas voir les Allemands rentrer puis l'Union soviétique rentrer. Puis ça, le Canada va falloir qu'il arrête de faire des études de budget puis de développer. Puis l'argent, est-ce qu'ils peuvent la trouver? Bien, écoute, quand tu auras deux minutes, là, va voir les budgets d'opération qu'avait le ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté canadienne avant la pandémie. Il y a eu les mêmes budgets d'opération pendant la pandémie, alors que c'est un ministère qui a été mis au point mort, puis que les fonctionnaires sont allés travailler à Revenu Canada pour gérer la PCU. Puis quand ces fonctionnaires-là sont revenus travailler dans leur ministère initial, les budgets d'opération qui avaient été pimpés, excusez le terme, mais pimpés à Revenu Québec sont demeurés les mêmes. Puis on parle de près de 7 milliards de dollars. Alors pourquoi qu'on n'irait pas réaffecter l'argent de ces budgets-là pour aller les mettre sur le fameux 25 milliards de dettes qu'on essaye de résorber? Puis à ce moment-là, bien, on serait peut-être capable d'en donner un peu plus à l'armée canadienne pour gérer puis améliorer ses opérations de toutes sortes. Mm-hmm.
Louis Gauthier, on va faire une très courte pause pour vous revenir tout de suite après pour la conclusion de notre merveilleux spectacle de ce soir. Tu restes avec moi. Je vous rappelle que ce soir, oui, on est avec Louis Gauthier. On parle du conflit entre Israël et le Hamas slash la Palestine. Restez avec nous. Donc, courte pause, on vient.
Marceau, le soir.
Le soir.
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock. Blink 182, one more time.
You are to die to hear you miss me. You are to die to hear you say goodbye. I wanna act like there's tomorrow. I don't wanna wait to do this one more time.
One more time. Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Salut Pierre, embarques-tu dans le pool cette année?
Eh oui, je me suis inspiré de l'événement Hyundai C'est Hockey pour choisir mes joueurs.
Et qui sont tes joueurs?
L'Elantra, le Venue et le Kona à l'attaque, le Tucson et le Santa Fe à la défense et le Palisade comme gardien.
Tu prends bien six joueurs de l'équipe Hyundai?
Certainement, Marc, je joue pour gagner et comme de nouveaux véhicules arrivent chaque jour, tu pourrais faire ton choix toi aussi dans l'alignement Hyundai.
Excellent plan de match!
Commandez votre nouveau véhicule dès aujourd'hui. Des conditions s'appliquent. La disponibilité des véhicules varie selon le modèle.
Podcast. La face cachée du rock avec Pat Langlois.
Salut, c'est Pat Langlois.
Entrez avec moi VIP dans mon nouveau podcast pour rencontrer les artisans qui travaillent dans les coulisses du monde du spectacle.
Que ce soit le guitar tech de groupe que vous entendez chaque jour à la radio, le booking des bands, la logistique technique d'un spectacle, chaque semaine, on va découvrir quelque chose de nouveau sur cette merveilleuse industrie qui nous fait tous un peu rêver.
La face cachée du rock avec Pat Langlois. En ondes, tous les mercredis 19h. Aussi disponible partout sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.
Présenté par ABBA Extermination. Le froid s'amène, mais les bébites restent. N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite, service garanti. ABBAExtermination.ca.
Pneus illimités, c'est une sélection de pneus inégalés, des outils d'achat utiles et des conseils spécialisés. Demain, 11 octobre, l'équipe de Pneus illimités sera au garage Auto-Élite AE sur le boulevard de Lormière. Prix de présence et pneus gonflables vous attendent. Ne manquez pas ça. Hankook, partenaire de Pneus illimités.
Boulevard 102, l'application mobile. Envoyez un message. Écoutez live. BLV. Boulevard 102.
Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811, option 3. Pour plus d'efficacité, explorez les options autres que l'urgence. Visitez québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
Si je te dis bière de micro et pizza, ça te donne le goût, hein? Du mardi au dimanche, ça se passe à l'Emporium. Avec une variété de bières brassées sur place et des pizzas cuites au four à bière rotative, l'Emporium, c'est la place pour une soirée en chum. Réserve sur microbrasserieemporium.com.
Chez Toyota, on construit des camions de qualité en pensant à vous. Parce que tout le monde a besoin d'un ami qui a un camion. Encore mieux si c'est un Toyota qui a gagné le prix de la meilleure valeur résiduelle du Canadian Black Book. Alors quand sonne l'inévitable appel à l'aide, montez dans votre camion primé. Parce qu'avoir un ami comme vous, ça aussi, c'est gagnant. Quand c'est l'heure de se retrousser les manches, c'est l'heure Toyota. Découvrez le Tacoma chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Facebook et Instagram veulent pas de nous autres. Vous autres, vous voulez rester informés et voir nos niaiseries. Pour tout ce qui se passe à Boulevard, l'app gratuite, TikTok, YouTube, X et le BLVD.fm.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Louis Gauthier, notre chroniqueur international, où on parle du conflit qui a débuté entre l'Israël et le Hamas. Louis Gauthier qui est avec nous en direct de Chicago, la ville des vents. Il nous reste quelques trucs à jaser, si tu le veux bien, mon cher Louis.
Oui.
Bon, il n'y a pas juste le conflit là, israélien contre le Hamas. Il y a un conflit qui perdure depuis plusieurs mois entre les Russes et et Volodymyr Zelensky et son Ukraine. On en est rendu où dans ce dossier-là? Et est-ce que ce dossier-là vient de passer deuxième? Et si oui, pourquoi?
Bien, il vient de passer deuxième parce que, veux, veux pas, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie qui perdure, qui ne semble pas connaître sa fin. Mais on pressentait jusqu'à il y a quelques semaines que la saison hivernale qui s'installe dans cette portion-là de l'Europe pourrait créer une fin parce que les Russes ont subi énormément de pertes l'hiver dernier. Puis ça pourrait être le coup de mort. C'est pour ça qu'on a gonflé l'effort militaire auprès de l'Ukraine pour s'assurer que les Russes n'avancent pas et qu'on essaie d'éradiquer cette poussée-là et ce conflit-là. La preuve, c'est que l'armée ukrainienne a réussi à faire certaines percées en début de semaine, puis la semaine dernière, sur les territoires ukrainiens, sur les territoires russes. Puis ça démontre à quel point là, on commence vraiment à stabiliser puis à gagner des points. Mais le fait qu'elle vient de passer deuxième concernant ce conflit-là vient de passer deuxième, ben on risque de voir Volodymyr Zelensky de taper du pied puis de dire hey, oubliez-moi pas là, il faut finir ça. Puis pour les Russes, c'est peut-être l'occasion de voir si l'effort militaire occidental apporté à l'Ukraine est déplacé momentanément vers Israël, bien, ça sera peut-être une occasion pour les Russes d'aller effacer une partie de leur dette de 8 milliards de dollars qu'ils ont depuis la perestroïka envers l'Ukraine. J'aime ça comparer ça de même parce que, dans le fond, pour moi, c'est carrément ça. Tu sais, il n'y a pas d'autre raison que d'essayer d'effacer une vieille dette de 8 milliards de dollars que de faire une petite guerre. Puis... Alors, ça pourrait être une occasion pour les Russes de faire ça. Mais les Russes, eux, faut pas qu'ils oublient, c'est que si jamais l'Iran se fait attaquer, si jamais ce conflit-là en Israël dégénère, ben est-ce que l'armée russe peut se permettre le management de deux conflits majeurs présentement en Europe? Ça, ça reste à voir. Alors, ça va être des... Est-ce que ça peut mettre un terme rapide au conflit russe-ukrainien pour consolider l'ensemble des forces des deux parties dans un seul conflit?
Ouais.
Alors, c'est toutes des questions qui se posent, puis ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler au cours des prochaines semaines.
Autre question, Louis, que j'ai eue sur l'heure du midi, parce qu'on n'a pas parlé comme on a parlé avec toi oui. Là, dans la dernière heure. On a parlé du conflit, mais on n'a pas été vraiment en profondeur. Puis il y a un auditeur qui m'a écrit, puis qui me dit, Yann, tu vas parler avec Louis tantôt. Tu peux-tu lui demander de quelle manière, nous, ça va nous affecter dans notre quotidien? Puis, il a écrit entre guillemets « gaz épicerie ». Est-ce qu'on pourrait être affecté par le prix de l'essence? Est-ce que le prix de l'essence, parce que tu sais, ils ont toujours des raisons pour augmenter le prix de l'essence. Là. Mm-hmm. Il y a une plateforme dans le golfe du Mexique qui est assiégée par des grands vents, ce qui fait en sorte qu'on augmente ça de 10 cents parce qu'on a peur que la plateforme pète. Conflit Ukraine-Russie, on a senti qu'il y avait une petite différence dans le prix de l'essence. Est-ce que ça peut faire une autre différence supplémentaire pour ce qui est du conflit entre Israël et la Palestine? C'est pas des grands producteurs de pétrole. Là.
Bien, là, je sais qu'on est mardi, puis que c'est pas journée de paye, mais si vous avez des vieux bidons d'essence qui traînent dans le cabanon, ça serait peut-être le temps d'aller les remplir, parce qu'en fin de semaine, ça va grimper.
Ah ouais, t'as cette impression-là, ils vont trouver une raison, là?
Ah oui. Ça, c'est sûr et certain que ça va être ce poste budgétaire-là qui va faire mal à votre portefeuille, chers auditeurs.
Puis pour ce qui est de l'épicerie, c'était la deuxième question de l'auditeur.
L'épicerie, c'est comme j'en ai parlé dernièrement, l'épicerie, les prix d'achat des aliments, c'est déjà réglé depuis un bout de temps.
Ouais.
Ça, c'est sûr qu'on va connaître une augmentation déjà prévue à l'approche des fêtes. Alors, ça n'aura pas une incidence sur le prix des aliments, mais surtout sur le prix de l'essence, le prix pétrolifère, le prix pétrolifère. Je te dirais, la bourse du pétrole là, va être affectée par ce genre de conflit-là en Israël, c'est sûr et certain.
Hey Louis, merci beaucoup de t'être rendu disponible avec nous pour les auditeurs de Mars au soir. Puis s'il se passe quoi que ce soit cette semaine, ça te tente d'entrer en onde pour nous expliquer des trucs sur l'heure du midi, t'es le bienvenu, mon ami.
Sans problème, bonne soirée à tous. Toujours un plaisir de m'entretenir avec toi.
Louis Gauthier, merci beaucoup. Bye-bye. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et on se retrouve demain 11h sur les ondes de Boulevard pour ce qui est de Marceau le midi. Et j'aurai le plaisir d'être avec Thomas Gaudier et ma très chère Pascal CV qui sera là pour ensoleiller cette émission-là qui est déjà quand même assez éclairée. Là, on va se le dire. Hey, salut! Bye-bye! Les podcasts s'en viennent.
Marceau le soir.
L'événement Hyundai, c'est hockey chez Lessard Hyundai. Découvrez la meilleure équipe de VUS. Santa Fe 2023, traction intégrale. Location 125 $ par semaine, 48 mois. Léger comptant chez Lessard Hyundai.
Chez Iris, nous proposons des marques de mode exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. LIA en fait partie. Nos montures LIA présentent les toutes dernières tendances de la mode, alliant qualité exceptionnelle et prix abordable. Jusqu'au 26 novembre, économisez 100 $ à l'achat d'une monture sélectionnée et de lentilles de prescription traitées anti-reflets. Visitez iris.ca pour tous les détails. Dr. Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que t'es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Vous songez à vendre votre voiture? BernierAuto.com, c'est la place. Que vous voulez racheter une voiture ou pas, nous pouvons la racheter à meilleur prix et vous pourrez récupérer vos taxes. Notre directeur des ventes, Mathieu, se fera plaisir d'évaluer votre auto.
Rendez-vous sur BernierAuto.com.
L'application Boulevard 102.1. Votez pour les tunes, réécoutez les meilleurs moments. Boulevard 102.1, c'est plus que du rock.
Quand quatre murs de bureaux beige ce n'est pas fait pour toi, que tu préfères le bruit des moteurs au bruit d'un clavier d'ordinateur, si tu aimes mieux travailler dehors que dans un décor en mélamine et que tu as envie que ton travail soit une aventure et non une routine ennuyante, pense au CFP Val-d'Or. Nos quatre formations minières d'une durée de 4 à 10 mois sauront satisfaire ton désir d'aventure. Pour plus d'informations, rends-toi sur leprodesmines.ca ou viens nous voir au Salon Carrière Formation de Québec les 19, 20 et 21 octobre prochains au Centre Expo Cité.
Au Complexe du Phoenix, retrouvez l'un des rares restos de grillades et fruits de mer ouverts 7 jours sur 7. Des huîtres fraîches en passant par un steak frites, essayez nos plats en constante évolution par notre excellente équipe de cuisine dirigée par notre chef Jonathan Devin. Réservation phoenixduparvis.com.
En quête d'aventure, partez à la découverte du Mazda CX-50. Conçu pour affronter presque tous les terrains avec sa traction intégrale iActive de série, le Mazda CX-50 vous offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 3500 livres et tout l'espace de chargement dont vous avez besoin pour partir explorer. En plus, profitez dès maintenant de 2 ans d'essai des services connectés Mazda et de la garantie à kilométrage illimité. Venez vite découvrir le CX-50. L'aventure vous attend chez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais YOLO!
Mais on vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
CV. Marceau le midi, Ravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le Rock and Chill, Boulevard du Rock, et le volume à planche.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
On est rendu au 4e épisode du Roadcast Boulevard 102.1. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et bienvenue dans l'univers automobile. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui vous concerne assurément, parce que ça me concerne, ça concerne tout le monde qui a une voiture, le lavage de notre voiture. Ça peut paraître banal, là, mais c'est tellement important de faire ça juste pour l'entretien de son auto. On peut éviter des problèmes de rouille, on peut éviter des problèmes de carrosserie en faisant des bons lavages de nos véhicules. Et pour parler de ce sujet-là, j'ai trouvé un expert que vous connaissez peut-être sur les médias sociaux, qui est un peu partout. Il s'appelle Thomas Laberge de Lab Auto Detail. Thomas Laberge va venir nous parler justement de toute sa spécialisation, où est-ce qu'il a appris à faire des lavages de voitures comme ça. Il faut savoir que Thomas Laberge, il fait du detailing automobile, ce qui est comme un peu l'espèce de remise à neuf parfaite d'une voiture. Il peut passer des journées complètes à nettoyer un seul véhicule. Et vous allez voir, il donne beaucoup de trucs et astuces de comment on fait pour prendre notre voiture à nous et d'appliquer des bonnes techniques de nettoyage sans virer fou. Parce que là, maintenant, on ne lavera pas nos voitures pendant 14 heures nécessairement. Puis si vous voulez faire laver votre voiture, vous pouvez faire affaire avec des professionnels comme Thomas Laberge ou aller voir des gens comme chez Volkswagen Saint-Nicolas qui peuvent vous offrir des lavages complets de votre véhicule. Je vous parle de Volkswagen Saint-Nicolas parce que c'est des spécialistes dans le domaine Volkswagen et ils ont des produits spécialisés pour nettoyer votre Volkswagen. Donc, vous ayez une Volkswagen Jetta, que ce soit une Golf ou que ce soit un Tiguan, un Taos, un Atlas ou peu importe quel véhicule de Volkswagen que vous avez, vous pouvez aller les voir. Ils vous offrent des nettoyages directement en concessionnaire. Donc, c'est possible d'aller faire l'entretien de votre véhicule. Vous êtes dû pour un changement d'huile et de vous payer en même temps la traite et d'avoir un beau lavage qui vient accompagner le tout. Je vous le dis, là, ça vaut la peine de nettoyer votre véhicule. Vous allez sauver des problèmes de carrosserie. Vous allez vous sauver bien de l'argent peut-être dans le futur si vous entretenez bien son véhicule. Et surtout, qu'est-ce qui est le fun? Mais c'est qu'avoir un char propre, c'est le plaisant. Là. On aime ça, avoir une voiture propre. On est fiers d'avoir un char propre. Donc, payez-vous la traite et allez voir mes amis chez Volkswagen Saint-Nicolas. Ils vont pouvoir vous organiser ça et s'assurer que votre Volkswagen soit la plus propre possible. Bonne écoute!
Le Roadcast Boulevard 102.1 avec Samuel Tremblay-Michaud. Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la rive sud. Ça clique avec Saint-Nic.
Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tout le monde qu'une voiture. Du moment où est-ce que vous avez un véhicule, que ce soit un VUS, un camion, une voiture coupée, une voiture sport, un bazou, n'importe quel char que vous avez, ce sujet-là doit assurément vous concerner parce qu'on va parler d'esthétisme automobile. Mais quand je parle d'esthétisme, on ne parle pas juste du look de votre voiture, on parle du ménage de votre char, on va parler de nettoyage de voiture, de remise en condition de véhicule, de vraiment, on va s'occuper de savoir comment faire pour que votre voiture soit son optimale possible, soit la plus belle possible, soit la mieux entretenue. Et pour ce faire, bien, j'ai un invité que vous devez peut-être connaître si vous êtes un amateur de voiture et que vous suivez les médias sociaux. Il s'appelle Thomas Laberge de Lab Auto Detail. Salut Thomas.
Salut, comment ça va?
Ça va? Ouais.
Oui.
Hey, je suis content de te voir. On te voit beaucoup sur les médias sociaux, sur TikTok, Instagram, Facebook et compagnie. Toi, tu es un spécialiste du lavage automobile, mais on t'a principalement connu sur ces plateformes de réseaux sociaux-là. Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que les gens te suivent autant que ça? Parce que là, je regardais ton compte TikTok, t'as 1,6 million de j'aime,
ouais.
104 000 ouais. abonnés sur ta chaîne.
Ah oui, c'est assez débile.
Et il y a du monde qui te suive, là, vraiment. Ouais. Là.
Ben là, on est rendu à 1,5 million de j'aime, puis presque 105 000, là, c'est assez fou.
Fait que ça monte ton affaire.
Vraiment, vraiment. C'est vraiment incroyable. Puis honnêtement, je pense que le pourquoi que les gens me suivent, c'est que je fais des véhicules assez exclusifs qu'on voit vraiment pas tous les jours. T'sais, c'est le style de véhicule qu'on voit au salon de l'auto derrière les barrières. Ben moi, j'ai accès à ce véhicule-là pendant des heures et des heures. Je montre tous les petits détails de l'intérieur, l'extérieur, mais le compartiment moteur que des gens me disent hey, « je sais même pas qu'il y avait un moteur là ». Fait que je pense que c'est ça que les gens aiment, puis c'est aussi les beaux avant-après avec les belles shots, que je prends les mêmes angles avec la même luminosité, mais c'est super sale, après super propre.
Ben c'est ça, tu parles d'avant après parce que toi, tu es un spécialiste du nettoyage.
Exact.
Tu fais du detailing
voilà.
automobile.
Voilà.
Moi, je connais ça pour le commun des mortels ou quelqu'un qui n'est pas certain de savoir c'est quoi du detailing automobile. Peux-tu me dire c'est quoi la différence entre du detailing puis un nettoyage de char?
Ouais, en fait, c'est assez simple, là, pour vulgariser. En fait, un nettoyage d'auto, exemple, qu'on s'en va au coin de la rue ou je sais pas trop quoi, on fait laver notre auto à la main, ça dure 15 minutes, merci, bonsoir, c'est 30 $ à peu près. Parfait.
Ça, on fait tapis, on lave les sièges, même pas les sièges.
On passe l'aspirateur, puis c'est tout.
On passe l'aspirateur, puis on met un petit sambon.
C'est ça.
Ça
ben
sent
oui,
frais.
Ben oui, il faut
c'est
mettre
ça.
Un petit sapin.
Oui, c'est ça.
Ça, okay. C'est parfait. Ça, c'est
bon.
Nettoyage.
Okay.
Mais quand on parle de detailing, moi, exemple, pour un nettoyage intérieur, extérieur, moteur, parce que je fais pas mal toujours le moteur, puis c'est vraiment satisfaisant.
Quand tu parles de nettoyage moteur, c'est vraiment laver les compartiments là, de plastique qu'on peut voir à l'intérieur du capot, en dessous du capot. Là.
Non, en fait, je sors le moteur complètement, puis non, c'est vraiment un compartiment moteur. Là, dans le fond, quand on ouvre le capot, tout ce qu'on voit, moi, je m'en vais nettoyer. Puis, bref, tu sais, pour le nettoyage de ces trois choses-là, c'est minimum un 7-8 heures que moi, ça me prend pour nettoyer comme il faut, en profondeur, comme je dis souvent dans mes vidéos.
Fait que 7-8 heures pour faire intérieur et moteur?
Ouais, avec l'extérieur aussi.
OK, mais c'est tout compris. Mais mettons, on parle d'une journée de travail. Là. C'est 8 heures complètes d'ouvrage
ouais.
pour faire le nettoyage d'un véhicule, ce qui donne le titre de detailing.
Voilà, absolument.
Parce que tu vas plus en profondeur.
Vraiment.
Puis c'est là que tu vas travailler après ça, aller chercher un peu plus les détails de finition, tu vas aller mettre l'esthétique. Dans le fond, ton but à toi, c'est pas juste de nettoyer, c'est quasiment de remettre à neuf.
Ben c'est toujours des remises à neuf. T'sais, moi aussi, ce que j'aime faire, c'est nettoyer des choses que personne va penser à aller nettoyer. Tu sais, par exemple, on a les pédales. Souvent, les personnes vont nettoyer les pédales vite. Mais moi, c'est que je m'en vais chercher le mécanisme en dessous des pédales jusqu'en haut. Je me mets dans la lumière, là, puis je m'en vais filmer, là, puis je m'en vais tout nettoyer ça. C'est juste un petit exemple. Sinon, dans le compartiment moteur, tu sais, souvent, les personnes vont nettoyer les plastiques, la peinture qu'on voit. Mais moi, je m'en vais chercher les câbles là, qui sont dans le fond, puis je m'en vais mettre un tire shine à la fin, tu sais, un lustre, pour que quand ça fait les avant-après, même si tu zoomes au plus profond, tout est nettoyé comme il faut. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. C'est un peu comme de l'art, là, honnêtement.
C'est pour plusieurs personnes une tâche plate, laver son char.
Ben oui, ben oui.
T'as-tu, mettons, un problème de ménage dans ta vie? T'es-tu, mettons, un accro du ménage ou...
Ben, honnêtement, on dirait que je retiens de mon père. Moi, mon père, quand on était jeune, c'était tout le temps. Fallait que, exemple, on faisait, je sais pas moi, le gazon. Ben, si le petit coin dans le coin de la cour était pas fait, fallait le faire. Fait qu'on dirait que j'ai appris, j'ai gardé ça de lui. Puis là, je transmets ça dans les voitures. Puis, mais, tu sais, j'ai toujours été un perfectionniste. Fait que j'applique ça, dans le fond, au nettoyage des voitures. Mais je peux pas dire qu'exemple, ma chambre ou mon auto, c'est autre chose.
C'est un peu ça, parce que, tu sais, pour vrai, l'image qu'on a tous sur les médias sociaux, c'est que, tu sais, justement, les jobs que tu fais sont toujours extraordinaires. Puis, tu sais, c'est la raison pour laquelle je te fais venir aujourd'hui, c'est que, veux pas, c'est impressionnant ce que tu fais comme job. Tu sais, on voit les autos, les avant-après, les voitures, ça arrive, sont plutôt sales, cochonnées, là, les chars sales, puis ils finissent de là. Puis, pour vrai, tu sais, si vous avez pas eu la chance d'aller voir ça, je vous invite vraiment à aller consulter Lab Auto Detail sur Instagram, TikTok et compagnie. Vous allez voir les jobs que Thomas fait. Puis, c'est vraiment impressionnant parce qu'on voit la différence. C'est incroyable. Tu sais, la voiture redevient flambant neuve. Puis, souvent, tu sais, on a un peu l'image de la personne qui s'occupe très, très bien de son auto, mais qui n'est pas nécessairement la personne la plus organisée dans sa vie. C'est le cas pour toi? Ou...
Non, moi, honnêtement, je suis quelqu'un de très organisé. Par contre, quand ça vient le temps de faire le ménage de ma chambre ou de mon auto, c'est juste que j'ai pas le temps. Je suis tellement occupé à faire les voitures, tout ça, que mon auto, là, c'est... Ouf, ça fait pitié un peu. C'est... Mais non, tu sais, je suis quelqu'un de très organisé, puis j'aime ça que tout soit fait à la perfection, tout ça. Fait que non, ça va ensemble. Mais c'est ça, tu sais, quand on parle d'esthétique puis de detailing, ce que j'aime faire... En ce moment aussi, dans le nettoyage extérieur. Puis ça, c'est vraiment de base. Là. C'est le strict minimum pour moi, c'est que je m'en vais même nettoyer la suspension jusqu'en arrière. Fait que j'ai des brosses, là, puis je m'en vais vraiment nettoyer là, toute la suspension, le spring, tout ça.
Le coil spring qu'on peut voir des fois sortir. Là.
Voilà, voilà. Puis ce que j'aime faire aussi, c'est, tu sais, moi, je me spécialise plus dans les véhicules de luxe. Fait qu'exemple, je fais beaucoup de Lamborghini Urus, des Porsche Cayenne. Justement, hier, j'ai fait un X6M compétition de BMW 2024. Complètement débile.
Mais il devait pas être sale, genre, là?
Honnêtement, oui. Parce que.
Voyons, donc, comment le monde font?
Ben c'est que souvent ces véhicules-là, c'est des véhicules qui sont utilisés littéralement à tous les jours, que ce soit hiver, été, automne, dans la pluie, name it, tout le monde les utilise, puis ça devient super sale. T'sais, on s'entend que c'est pas un désastre que ça fait 15 ans que c'est pas nettoyé, mais pour moi, quand ça fait deux semaines que c'est pas nettoyé, c'est sale.
C'est inacceptable, c'est ça.
C'est ça, exact.
Puis là, les voitures que tu m'as nommées, c'est principalement des VUS, parce que tu sais, je trouve ça important de le préciser, parce que dans l'imaginaire collectif, tu roules pas ta Lamborghini Huracan en tempête d'hiver non plus.
C'est encore drôle.
Ah ouais?
J'ai des clients qui le font.
OK, c'est bon. Parce que c'est ça. Là, l'affaire qu'il faut mettre au clair aussi avec les gens qui nous écoutent, toi, tu te spécialises dans le véhicule haut de gamme.
Voilà.
Mais de très haut de gamme. On parle vraiment de Lamborghini, tu fais des Ferrari. Ouais. J'ai vu plein de voitures passer sur tes médias sociaux. La voiture haut de gamme, est-ce qu'elle te demande une spécialisation supplémentaire? Est-ce que tu penses que tu as développé cette expertise-là, mais que c'est assez unique en son genre?
Je pense que oui, parce que, ben, premièrement, il n'y en a pas autant que des véhicules normaux. Puis, deuxièmement, c'est des matériaux qui sont différents. T'sais, exemple, qu'on prend dans une voiture normale, c'est bon, du plastique, il y a des fois du cuir, mais c'est du simili-cuir.
Caoutchouc.
Exact, c'est du tissu. Ben, lorsqu'on tombe dans une voiture plus de luxe, exemple une Ferrari F8 Tributo, ben, c'est que le cuir, c'est un cuir italien qui est assez fragile, il faut faire attention. Sinon, il y a souvent de l'Alcantara comme du Suède. Fait que ça, c'est une autre technique à nettoyer. Tu peux pas frotter fort parce que j'ai un client qui son volant de sa Huracan Performante Spider, il était en Alcantara, puis il a dit je vais essayer de le nettoyer, mais il a pris un savon sans mayonnaise du Canadian Tire, il a frotté super fort. Il a scrappé son volant.
T'es-tu en train de me dire que le gars s'achète un char à 400 000 $ puis il va s'acheter du savon à 3 $ chez Canada?
Mais ça, c'est la croyance populaire. Il y en a qui ont appris ça de même de nettoyer comme ça, puis c'est bien correct. Là, eux, c'est pas leur spécialisation. Leur temps, il est vraiment plus important ailleurs dans leur business. Mais moi, je suis là pour ça. Je suis là vraiment pour mettre ton véhicule plus que showroom. Fait que, bref, c'est ça. Il avait scrappé son volant. T'sais, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'est des petits poils fins, là, puis en tout cas, c'était tout scrap. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment faire attention dans les véhicules de luxe. C'est des surfaces différentes. Tu sais, ça reste une surface, une carrosserie, peu importe. Mais quand on tombe dans le luxe, il faut vraiment que ça soit parfait. Il faut qu'il n'y ait aucun détail. Il faut faire attention de ne pas graffiner lorsqu'on lave la peinture, tout ça. Fait que moi, c'est là-dedans que je me spécialise. Ouais.
Fait que la voiture de luxe en tant que telle, elle est complexe. Clairement, les gens qui m'écoutent présentement, de ne pas avoir énormément de propriétaires de Lamborghini, ben, du moins, si vous en êtes un, ben bonjour. C'est un plaisir.
Contactez-moi,
j'aimerais ça faire un road test. Mais c'est sérieux, c'est plus rare. Toi, mettons,
est-ce que tu fais aussi des voitures plus grand public ou tu vraiment tu te spécialises juste dans le haut de gamme comme ça?
Ben en fait, moi, mon entreprise, ça fait à peu près, ça va faire 2 ans bientôt là, que j'ai lancé ça. Puis au début, évidemment, ma clientèle, c'était pas que du luxe comme maintenant. Fait que oui, je faisais des véhicules de plus de tous les jours. Mais là, maintenant, j'ai la chance de me spécialiser là-dedans puis de faire que ça.
Y a-tu en masse de chars? T'as-tu en masse d'ouvrages?
En masse.
Ah oui?
C'est juste, par exemple, avec mon TikTok, c'est là que les gens me voient puis ensuite, ils me contactent sur Instagram, par téléphone, texto, etc. Puis juste avec ce réseau social-là, je suis enfoncé du lit jusqu'en septembre. T'sais, en ce moment, on est en juillet. Mais je suis booké jusqu'à début septembre, puis c'est que du luxe.
Puis toi, tu penses qu'après ça, tu vas être capable de céduler encore tout ton automne également? Là?
Absolument.
Parce que là, on fait le podcast. C'est important de le dire aux auditeurs. Nous, on a fait le podcast cet été ensemble parce que on voulait justement ton horaire est extrêmement chargé. Puis je voulais être sûr d'être capable de te prendre à travers tous tes milliers de rendez-vous. Donc là, tu me dis que t'es cédulé jusqu'en septembre qui s'en vient, mais que de véhicules de luxe.
Exactement.
Quand tu parles de véhicules de luxe, tantôt, tu me parlais d'un X6. Est-ce que, mettons, moi, je suis propriétaire d'un Mercedes-Benz, un C300? Ouais. 2020, je peux-tu t'appeler ou tu vas encore plus loin que ça?
On peut m'appeler pour un C300, mais moi j'aime ça aller plus loin que ça. Okay. Ce que je fais maintenant, exemple cette semaine, je suis à Québec. Puis normalement, moi, il faut que les gens comprennent, moi je suis de Blainville, la rive nord de Montréal. Puis cette semaine, parce que j'avais beaucoup de demandes à Québec, fait que j'ai dit, bon, ben, parfait, je vais toutes les céduler dans la même semaine puis je vais aller les faire. Fait que tu sais, avant-hier, c'est une Audi R8. Hier, XSM Compétition. Aujourd'hui, c'est une 911 Turbo S. Demain, c'est une C63S AMG. Puis après ça, vendredi, samedi, c'est 2 Ferrari, 488 GTB puis une 98 Tributo. Fait que ça, c'est ma semaine.
Puis ça, c'est à Québec. Hein. Fait que des fois, on a comme la perception qu'on a juste des gros chars de course à l'extérieur de Québec, mais il y en a ici.
Il y en a.
Quand tu parles de ces voitures-là, tu sais, moi, j'ai à peu près 1 000 et 1 questions à te poser, mais la première que j'ai envie de me poser, c'est que c'est des voitures de très haut coût, qui coûtent extrêmement cher, qui ont des très grandes valeurs. Toi, tu t'es lancé en affaires, ça fait 2 ans que tu l'as fait. Est-ce que tu as expérimenté des hauts et des bas d'être entrepreneur jeune comme toi, mettons, de te lancer là-dedans? C'est-tu quelque chose qui t'a perturbé, mettons, de commencer à nettoyer des voitures de haute valeur? Parce que j'imagine que ça te prend des assurances béton pour travailler dans ces chars-là.
Oui, absolument.
Puis ça coûte-tu une fortune? Comment ça s'est développé, ton entreprise? Parle-moi un peu de comment ça s'est fait, Autodetail. Tu as dû rencontrer plein d'embûches là-dedans. Je veux tout savoir.
Oui, parfait. Fait que dans le fond, c'est ça. Quand j'ai lancé mon entreprise il y a à peu près 2 ans, comment j'ai parti? T'sais, moi, je voulais spécialisé dans véhicules de luxe. Je me suis dit, bon, comment je vais atteindre ce genre de clientèle-là? J'en avais aucune idée. J'avais jamais fait de marketing, rien de ça. J'étais pas sur TikTok encore. J'avais juste Instagram, Facebook, puis j'essayais de faire de mon mieux. Puis là, au début, j'ai commencé, je me rappelle, c'était à l'hiver, début d'hiver 2022. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, en fait, c'était l'automne 2021 officiellement, ça a parti.
C'est là, OK, ouais.
Exact. Fait que là, je commence à faire un petit peu de véhicules, mais là, c'est des véhicules de mon entourage. Fait que j'essaie de faire du contenu avec ça. Rendu à l'hiver 2022.
Mais t'as commencé à faire du contenu dès le départ.
Exact.
Et toi, t'as eu la vision de juste les médias sociaux.
100%. C'est comme j'ai pas le choix. T'sais, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube, qui consomme du contenu sur les réseaux sociaux à chaque jour. Fait que je me suis dit, si j'ai une business à m'amener ou s'il y a de quoi qu'il faut qu'il fonctionne, ça va être avec les réseaux sociaux. Ça, pas le choix, c'est sûr que ça va fonctionner. Fait que bref, j'ai commencé à faire ça automne 2021. 2022, après ça, rendu à l'hiver, je me suis dit, OK, là, l'été s'en vient, ça va être ma grosse saison. Comment je vais faire pour atteindre ce genre de clients-là que je veux? OK, bon, là, je vais essayer de booster mes publications sur Facebook. Ça veut dire que je paye un certain montant pour avoir plus de visibilité par la suite.
Du sponsoring pour
exactement,
les intimes.
C'est littéralement ça. Fait que tu payes, mettons, 60$, puis tu postes tes pubs, 400 000 vues. Là, j'atteignais un genre de clientèle, mais c'était pas le genre de clientèle que je voulais. T'sais, c'était exemple des gros pick-up, après ça, c'était des voitures plus normales.
Puis c'est pas péjoratif, c'est des voitures.
C'est bien correct.
C'est correct, ben, on roule là-dedans. Là, moi, je me trompe, tu roules pas à Lamborghini Urus toi-même.
Là, bon, Mazda 3,
bon, là, fait que... ben, c'est ça, t'sais, soyons conscients. C'est juste que toi, tu t'es dit, je veux me spécialiser dans le très haut de gamme. Fait que c'est pas parce que t'arrives avec ton truck à 100 000, il est hot ton truck, je le trouve cool, mais c'est pas ça que je veux faire.
Exactement.
Bon, fait que là, après ça, tu te dis, bon, là, c'est pas bonne clientèle, tu reviens de bord, tu cherches ces gens-là, puis comment tu fais?
Ouais. Ben, dans le fond, là, j'ai découvert assez vite que, oublie ça, ça allait pas marcher avec Facebook. Puis je me suis dit, effectivement, tu sais, les propriétaires de Lambo sont peut-être pas tous sur Facebook, ils ont leur temps et ils comptent ailleurs. Fait que là, je me suis dit, bon, mais moi, j'ai pas le choix d'aller vers eux, je vais pas attendre qu'eux viennent vers moi. Fait que j'allais faire du porte-à-porte.
Oh!
Fait que là, ben, en fait, avant de faire le porte-à-porte, une petite anecdote, là, vite, c'est que j'étais sur la route, puis j'étais sur un boulevard, puis à droite, il y avait une station-service, puis là, je spot un Lamborghini Urus. Ça faisait
le VUS de Lamborghini.
Puis, tu sais, il y a 2 ans, c'était quand même assez unique, là, à Blainville. Là, je suis comme, oh my god, je veux faire ce véhicule-là, ça va être complètement débile sur les réseaux sociaux. Fait que parfait, je m'en vais le voir, puis dans ma tête, il va me revirer de bord. Puis finalement, il dit, oh, viens-t'en, parfait, je te donne mon numéro, on prend rendez-vous. Fait que là, moi, je capote ben raide, mon premier Lambo, je suis comme,
Pourrais, je pense que c'est la première personne aussi excitée de laver un char que je rencontre de toute ma vie. Tu sais, au bout de la ligne, c'est de laver un char. Mais c'est cool, tu sais, j'aime ça, t'as vraiment une passion. Fait que là, la Lamborghini, ça fonctionne. Je m'en vais le voir, là.
La semaine d'après, je suis chez eux, j'ai 7 heures avec une Lambo russe à 350 000, puis je capote ben raide, là. Je suis fébrile. Puis, parce qu'il faut comprendre que moi, depuis tout jeune, ma passion, c'est les voitures. Je respire ça.
Mais c'est un peu vers lui que je voulais qu'on aille tranquillement. Parce que, tu sais, clairement, si t'as vu un Lamborghini Urus de loin dans une station-service, c'est parce que tu étais capable de la reconnaître aussi. Oh, là, parce que je pense que pour la plupart du monde, tu sais, moi aussi, quand j'en vois un, je trouve ça nice. Là, c'est sûr que moi, les gens qui commencent à me connaître, j'aime plus les voitures que les VUS. Fait que, tu sais, rien contre le Urus, mais ça reste un VUS.
Mais en fait, oui, c'est un VUS, mais c'est un Lamborghini. Parce
que, c'est moi, ça marche, c'est un logo. Là. Tu voulais avoir la brand, tu voulais que les gens flashent sur le fait que c'est un Lamborghini. Tu es arrivé là-bas, tu es un tripeux de char depuis toujours.
Ouais.
Est-ce que tu t'es dit, ben là, c'est ma chance? Comme là, c'est là que je réussis à percer?
Exact. C'est vraiment ça. Je me suis dit, si lui m'accepte, puis je vais faire son auto, moi, il y a mon photographe, mon ami qui est photographe, on va prendre des belles photos pour mon site web. Je vais afficher ça sur Instagram, sur TikTok. Je vais commencer à faire des vidéos, tout ça. Que, là, moi, ça déboulait dans ma tête, puis je me suis dit, parfait, ça part de même. Il m'a dit oui. Oh my god, OK, là, ça part. Direct, là, let's go.
T'étais-tu nerveux? Tu m'as dit que t'étais fébrile, mais moi, j'avais été nerveux de casser le char. Oh, j'avais pas le graffiné, de peinture.
J'ai jamais pensé ça. J'étais comme, je suis tellement content de passer une coupe d'heure avec ce véhicule-là, puis de faire du bon contenu. Fait que j'ai profité tellement de chaque seconde, là, c'était complètement débile, je m'en souviendrai toujours.
Nice.
Puis après ça, quand j'ai dit, OK, là, ça part, ben, là, on va aller faire du porte-à-porte, parce que j'ai pas le choix d'aller faire ça pour atteindre la clientèle.
Le Urus, tu l'as mis sur ton site web, tu l'as mis sur tes réseaux sociaux, ça a-tu levé un peu? T'as-tu senti que les gens étaient contents de voir ça?
Là, ça a commencé à dire, OK, il fait pas juste des véhicules normales. Là,
tu l'as senti de suite?
Ouais, j'ai senti de suite.
T'sais, des fois, on dit ça, des gens qui ont des rêves, là, des gens qui ont des passions, ça prend juste une shot.
Exact.
Tu as eu une shot avec ce véhicule-là en particulier. T'as senti tout de suite qu'il y a eu une bonne vague autour de ça, puis tu t'es dit, je vais aller faire mon porte-à-porte, mais au moins j'ai une preuve. Je peux vous montrer que j'ai fait du Lamborghini.
Voilà, absolument. Absolument. Puis ce que je disais au monde, dans le fond, que j'allais faire le porte-à-porte, puis il faut comprendre qu'il y a quand même il y a quand même beaucoup de quartiers aisés là, à Blainville, à Lorraine, autour de chez moi. Fait que bref, je profite de ça. Puis en plus, quand j'étais jeune, je faisais du car spotting. Fait que je me promenais en vélo pour aller spotter dans les quartiers qui a une Lambo, qui a une Ferrari. Fait que là, j'avais tout ce knowledge-là, ce savoir-là, puis juste appliqué au porte-à-porte. Fait que là, j'allais cogner aux portes, puis quand je cognais, je disais, écoutez, j'offre des services d'Acetec Automobile directement à domicile. Fait que ça veut dire que je me déplace dans votre entrée pour faire votre véhicule et je me spécialise dans les voitures de luxe. J'ai vu que vous aviez telle affaire, je peux offrir nettoyage intérieur, extérieur, moteur, blablabla. Puis là, le monde, OK, parfait, ben donne-moi ta carte d'affaires. J'ai dit, allez voir sur mon site web. J'ai plusieurs clients qui ont des Lamborghini Ferrari. Au début, c'était pas super vrai.
Mais c'est correct, t'es un bon prêcheur. C'est correct, là, voilà, franchement. Voilà. Tu veux vendre ton entreprise. T'en avais un déjà là. C'est déjà mieux que juste dire, viens voir mon Civic 98. Là.
C'est ça.
Tu sais, c'est quand même cool pareil. Là, t'avais déjà un Lamborghini. Fait que là, les gens t'ont-tu rappelé? T'as-tu senti que ça.
Quand ça partit pour de vrai, les gens commençaient à m'appeler, mais tu sais, des fois, ils voulaient savoir, s'informer, OK, là, on prenait pas rendez-vous, tout ça. Puis, une autre anecdote du style d'un Lamborghini Urus, mais ça, c'était une Ferrari F8 Spider.
Oh, oui.
C'est une rouge classique, une belle Ferrari, oh, là, que t'as spot à 6 km de loin, là. J'étais chez un client pour faire sa Tesla, puis sa Porsche 911. Je cognais pour, séduis-le un rendez-vous, peu importe, aller parler au propriétaire. Puis là, j'entends justement la Ferrari arriver. Elle arrive. Là, je reconnais tout de suite le son.
On l'entend.
Je me retourne, je suis comme, oh my god, voir que ça ici. Là, elle passe en l'air de moi. Puis là, je venais de finir avec le proprio. Fait que là, je cours dans mon auto. Puis là, je la suis. Je suis la Ferrari.
Qu'est-ce que je peurant, là, le gars, d'être un stalker qui me suit. Là, il y a quelqu'un d'épeurant qui me suit.
Mais tu sais, je faisais. Tu sais, j'étais pas collé.
Comme dans les films, tu gardais une distance.
Voilà, 100%. Fait que là. Puis là, finalement, il habitait 30 secondes plus loin. Parfait. Fait que là, j'attends qu'il sorte de son auto. Il ouvre sa porte.
Tu l'attaques. Non, non, c'est pas vrai. T'sais, le gars, il saute dessus.
Non, fait que là, il sort de son auto. Puis je dis, écoutez, puis là, je reconnais à la maison. J'avais déjà fait du porte-à-porte parce que c'est nous dire RS6, qui est déjà très cool.
Ben voyons donc, il y a du monde qui a de l'argent, hein?
Ah non, dans mes clients, là,
c'est... Ah ouais, hein? Mais je sais pas, et puis j'ai bravo, tu sais, c'est des gens qui travaillent super fort, qui mettent leur vie là-dedans, là, tu sais, je trouve ça incroyable. Mais moi, un RS6, là, ça, c'est mon char.
Ah, pour vrai?
Ah ouais.
Ah, ouais, non, c'est cool. Écoute, j'en ai fait deux RS6, puis sont assez débiles.
Ah oui.
Ouais,
fait que RS6, Ferrari dans le cours, les deux sont à côté.
Non, dans le fond, première fois que j'ai fait du porte-à-porte, il y avait son RS6.
Il y avait pas le Ferrari, OK.
Je sais comme, je veux faire un RS6, c'est quand même cool. Puis là, finalement, il arrive avec sa F8, fait que là, je suis comme, oh my God, il y a ça aussi, là. Fait que là, je m'envoie y parler, puis initialement, j'avais parlé à sa femme, puis là, finalement, c'est le proprio. Fait que c'est mon client maintenant, mais là, j'y parle, puis il dit, bon, mais veux-tu la faire tout de suite? Là, je suis comme, oui. En plus, j'avais tout mon sac, puisque j'étais allé faire un nettoyage en journée.
Ouais,
parfait.
Mais t'as peu. Ouais. Je vais juste arrêter une seconde. Tu me disais que c'est 8 heures faire un lavage à peu près, tu sais. Là, t'arrives de faire une Tesla puis une 911. Là. Moi, mettons, je lave ma voiture. Là, j'ai un Golf Sport Wagon. Là. Quand je finis ça, j'étais en sueur complète. Là. J'ai chaud, là. Tu sais, je suis brûlé. Ouais. Là. Toi, tu me dis, ouais, je vais me taper une Ferrari en plus.
Absolument. Absolument. Parce que je te dis, soit j'embarque dans le bateau tout de suite, ou je laisse passer l'occasion. Puis...
Hey, j'aime ça.
Moi, c'était comme c'est ça ou c'est ça. That's it, on l'a fait, puis let's go. Heureusement, j'ai pas passé 8 heures dessus. Là. C'était peut-être un 3-4 heures, puisqu'il était quand même déjà assez propre. Là. Fait que j'ai fait des belles photos avec ça. J'ai posté ça sur TikTok, tout ça. Puis là, le monde. Aïe, aïe, tatata. Ça a commencé avec ça. Puis, tu sais, à titre d'exemple, 7-8 heures, là, c'est strict minimum. Puis il y a un moment donné, là, ça c'est une autre, j'en ai plein d'anecdotes, là, mais
ben, je trouve ça le fun,
celle-là, là, ça je me trouve assez débile. Il n'y a pas grand monde qui a fait ça, là, je suis pas mal sûr, mais c'était cet hiver, en février à peu près. Puis bref, la personne dans le contact, elle a une Corvette C8, c'est une nouvelle. Oui. Puis avec les Corvettes, leur peinture, toutes les peintures de GM, en fait, c'est assez cheap. C'est pas super une grosse qualité. Puis en plus, c'est noir. Fait qu'on connaît tous la peinture noire, ça se graffine.
Ça écaille aussi. Là, on voit des... Puis les cheveux d'ange, les fameux cheveux d'ange.
Exact. Ouais. Fait qu'il y avait tout ça sur le véhicule.
Cheveux d'ange, pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas au courant, c'est l'espèce de filament qu'on voit des fois à travers la peinture. T'sais, quand on regarde la voiture au soleil, on peut voir que. On dirait qu'on voit, que la guenille a été passée il y a pas longtemps, quasiment. T'sais, c'est comme graffiné.
Exact.
Mais c'est pas une vraie graffine profonde. C'est juste une graffine de surface.
Voilà.
Puis ça, c'est plate parce que quand on en a beaucoup sur le véhicule, que le noir à la longue, on perd le lustre du noir.
Absolument, là. Absolument. Fait que bref, il y en avait partout. C'est comme des toiles d'araignée, en fait, autour d'une lumière. Là, c'est ça qu'on voit.
Ouais.
Donc, c'est ça. Là, je m'en vais faire ça. Puis moi, normalement, j'allais passer à peu près 18 heures sur le véhicule. Fait que je me dis, bon, parfait, je vais faire ça en deux jours. Parce qu'évidemment, 18 heures en une journée, c'est assez débile. Fait que parfait, je vais faire ça en deux jours. Mais là, rendu sur place, le lendemain, je sais très bien qu'il va y avoir un verglas. Fait que je dis, ben là, j'ai pas le choix de clencher ça en une journée. Fait que là, je dis, pas de choix, on clenche en une journée. Fait que finalement, j'ai fait exprès, j'ai commencé à 6 heures le matin, exemple qu'on était le 20 février. Je commence le 20 février à 6 heures le matin. Puis là, rendu, mettons, à 3-4 heures l'après-midi, j'étais comme, hey, j'ai pas le choix, faut que je clenche en une journée. Fait que là, dans ma tête, j'allais peut-être finir à 11 heures, minuit à peu près. J'ai fini à 5 heures du matin le 21.
Ah, sérieux, ça n'a pas de bon sens.
25 heures de suite.
Ça n'a pas de bon sens.
Puis je te le dis, là, j'ai pas arrêté 2 minutes.
Ça n'a pas de bon
sens. C'est du grind non-stop pendant 25 heures.
T'étais sa polisseuse sans arrêt.
Polisseuse. Puis là, il fallait que je fasse aussi moteur, intérieur. Fait que c'est non-stop.
Ah, mais je sors là après 24 heures quasiment d'ouvrage. Ouais. Là.
25, c'est très important.
25 heures d'ouvrage que t'as fait ce char là.
Puis il est sorti complètement débile. Là. C'est comme si on venait de la peinturer. Là. C'était incroyable. Incroyable.
Le propriétaire devait juste capoter sur toi. Là. Il devait comme ça, pas de bon sens. Oh, t'as pas travaillé 25 heures sur mon char.
Non, il capotait. Puis il l'a vu parce que j'étais dans son entrepôt d'entreprise. Puis il y a des caméras. Puis il m'a vu partir à 5 heures du matin. Puis il était comme, voyons donc, t'as-tu dormi ou t'as-tu mangé?
25 heures d'ouvrage sur un char, ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais là, tu sais, je comprends que tu peux le mettre propre ton auto, mais à quel point? Non, c'est quoi que t'as trouvé comme pour faire 25 heures de travail?
Mais tu sais, juste pour polir un auto, pour enlever les fameuses toiles d'araignée sur la peinture, là, ça m'a pris 16 heures pour enlever tout ça au complet.
OK, fait que déjà là, okay, dans le fond, le principal de la job, c'était vraiment l'histoire des fameuses toiles d'araignée, les cheveux d'ange qu'on appelle, qu'il y avait partout sur le char. Ça t'a pris 16 heures de polissage.
Ouais, exactement.
Après ça, tu t'ajoutes la routine plus habituelle du intérieur-extérieur moteur.
Exact.
Fait que 25 heures d'ouvrage. En tout cas, je sais pas comment tu fonctionnes, mais j'espère que c'est des forfaits à l'heure.
Non, c'est pas à l'heure, mais c'est dans le fond, c'est des forfaits. Tu sais, exemple, que je veux un polissage, bon, mais c'est ça le prix pour tel auto, mais je le sais très bien, c'est quoi les heures qui sont derrière ça. Fait que
là, je connais plus ça, mais j'imagine qu'au début, tu sais, quand tu t'es lancé, tu devais pas le savoir tout le temps.
Non, c'est ça.
Tu as dû avoir des surprises.
Oui, absolument. Fait que là, je suis comme, aïe, c'est tellement plus long que prévu, puis j'ai pas le choix. Là, c'est ça le prix que j'ai dit au client, fait que ça va rester de même. Mais après ça, tu sais, tu t'ajustes de fil en aiguille. Mais non, c'est ça. C'est,
fait qu'après 2 ans, tu as fait toutes ces aventures-là. Tu as commencé à spotter une Lamborghini russe, la Ferrari ensuite. Tu as fait ta Corvette. Ben là, tu sais, je vais dans un désordre.
Tu
as dû faire d'autres véhicules à travers ça également. Puis là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, finalement, que Lab Auto Detail, ça existe puis que ça roule. Aujourd'hui, tu me disais que tu es cédulé jusqu'en septembre. As-tu le privilège de choisir un peu plus ce que tu veux choisir comme véhicule?
Oui, absolument.
Tu as assez de catalogue pour ça. Là.
Vraiment. Vraiment. Puis souvent, le monde qui me contacte, ils me disent « Tu fais ça encore des véhicules plus normal? »
Tantôt, je te pose la question parce que je suis à le dire. Moi, ouais. Je te vois aller depuis longtemps aussi. Puis je rêve de faire une mise à jour complète de mon véhicule. Je conduis pas une Lamborghini, tout le monde. Là. Je sais que j'ai un Sportwagen, on verra pas fou. Là. Mais je rêve de vivre ça, là, l'espèce de detailing comme ça, d'aller autant en profondeur parce qu'à un moment donné, moi, je le fais mon lavage puis je pense que je le fais mieux que beaucoup de gens dans le sens que je vois plus loin. T'sais, je vais faire un cirage par moi-même. Ça, je dis ça, mais il y a plein de monde qui font ça. Mais tu sais, je vais faire des éléments un peu plus profonds que juste le balayeuse petit ouais. sans bon qu'on parlait au départ du podcast. T'sais. Mais tu sais, je suis pas capable de. Je vois pas aussi loin que toi, là, jamais de la vie. Je passerai jamais 25 heures sur mon char. Puis je l'aime, là. Ouais, mais je passerai jamais 25 heures en ligne à laver mon auto. Pour vrai, je virerai fou à la fin de ça. Fait que là, aujourd'hui, toi, tu te privilégies. Tu es capable de te dire, moi, je veux pas faire ton auto. Comment tu dis ça à quelqu'un?
Non, ben en fait, ce que je dis, c'est. Moi, c'est sûr que en plus de faire des véhicules de luxe, ce que j'aime ça travailler, c'est que je fais du beau contenu avec ça.
Ouais.
Fait que des fois, ça m'arrive de prendre un véhicule qui est super sale, puis parfait, je vais le faire, parce que les avant-après, le monde aime ça sur les réseaux.
Ça pique la curiosité.
Exact,
là.
Exact. Mais tu sais, là, en ce moment, c'est ce que j'aime faire, puis de toute façon, l'été, elle arrive à sa fin, là. Fait que je dis, ben, regarde, je vais faire que du luxe. Fait que là, je fais affaire avec, dans le fond, des sous-traitants. Okay. Fait qu'eux, je leur envoie les véhicules plus normales, puis les gens sont bien d'accord avec ça. Le nettoyage va être quand même fait. Fait que bref, ça, c'est parfait pour ça. Mais moi, je réussis à choisir les autos que je veux faire. Fait que tu vois, cette semaine, je suis venu à Québec, puis je m'en vais au Saguenay en fin de semaine. Puis je me suis juste booké des chars de luxe. J'avais des demandes à Québec pour des voitures plus normales, mais je dis, gars, si je viens à Québec, ça va être pour du luxe.
Fait qu'à faire le voyage entre Montréal et Québec, voilà. Je vais me concentrer sur ça. Tu sais, on parle depuis tantôt des 25 heures d'ouvrage que tu as fait sur une C8, là, je n'en reviens pas. Mais on parle, mettons, de l'ensemble de ta spécialisation. Toi, ça part de où tes connaissances dans le lavage de voitures? Tu sais, il n'y a pas de cours à l'école, il n'y a pas comme la formation des laveurs de voitures. Il y en a-tu?
Oui, il y en a. Non, je pense que c'est un DEP pour ça, mais moi, en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'autodidacte. Fait que j'aime ça apprendre par moi-même. Fait qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai acheté mon auto, ma Mazda 3, là, en tête environ 4 ans, 4 ans et demi, j'en nettoyais, mais au début, je commençais avec sans vaisselle, serviette de plage. Yes, sir, on part.
OK! Fait que tu commences à te faire, parce que là, on va le rappeler aux gens. Prenez pas de savon vaisselle.
Non, s'il vous plaît, parce que savon vaisselle,
c'est peu importe le véhicule que vous avez, là. Prenez pas de savon vaisselle.
C'est ça.
Puis exact. Pourquoi, explique-le?
Savon vaisselle, c'est un dégraissant. Fait que ça, dans le fond, ça va tout stripper, ça va tout enlever. Peu importe c'est quoi la protection, peu importe ce que c'est. T'sais, quand on nettoie de la vaisselle, là, on va la nettoyer au complet, puis on strip tout ce qu'il y a dessus. Ben, c'est la même affaire pour la peinture d'auto. On veut pas enlever s'il y a une protection ou s'il y a quoi que ce soit sur le véhicule. On veut pas enlever ça parce que sinon, la peinture est comme tout nue, si on peut dire. Fait qu'elle n'est pas à l'abri des contaminants, elle n'est pas à l'abri du soleil, tout ça.
Donc là, elle peut devenir moins belle, elle peut s'écalquer, elle peut lui taper. Puis ça peut amener de la rouille au bout de la ligne, là, parce que tu sais, si là, on est dans un scénario de catastrophe, là, mais ça pourrait effectivement amener à écailler votre peinture, qui là, on pourrait exposer le métal de l'auto, le métal pourrait rouiller, puis là, on crée les problèmes de rouille qu'on connaît bien au Québec. Mais tu sais, ça, on s'entend, on est dans un scénario de catastrophe encore une fois, là, mais prenez pas du salon à vaisselle. Mais t'as commencé de même, toi, là. Fait que salon à vaisselle, ça va être de plage, puis ah ouais, je lève mon masque de trop.
C'est ça, exact. Fait que là, on commence à faire ça. Puis après ça, je me suis dit, là, l'intérieur de la porte, là, comment on nettoie ça? Là, j'étais curieux, parce que moi, je voulais nettoyer. T'sais, j'ouvrais la porte, puis c'était toute sale. Comment je vais faire ça? OK, ben, je vais aller voir sur YouTube, parce que moi, je passais mon temps quasiment juste sur YouTube à regarder des vidéos de YouTubers, Shmi150 sur YouTube, Daily Driven Exotic, des choses comme ça. Puis là, je commençais à regarder, exemple, des Ferrari qui se faisaient laver, des R8. J'étais comme, hey, c'est intéressant, c'est cool, ça. Hey, le monde, il passe 20 heures, voyons, c'est pas de malade. Puis là... Là, je dis, ah, OK, ben je vais essayer de regarder comment nettoyer ici. OK, bon, là, le moteur, comment on fait ça, le moteur? Je vais checker sur YouTube, puis on check ça. Là, OK, bon, mais là, je vais acheter tel produit. La personne dit d'acheter ça. Bon, je vais acheter ça. Le tel outil, je vais acheter ça. Puis à un moment donné, au fil en aiguille, je regarde des tonnes et des tonnes de vidéos. J'achète plein de stocks. Puis là, dans le fond, moi, j'étais en technique policière un an. J'ai fait un été comme cadet policier, là, dans le fond, 3 étés.
OK.
Puis après ça, j'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Je quitte ça. Je me prends en affaire d'éternel. Puis là, OK, parfait. Là, on se pense. Je regarde là, des centaines d'heures de vidéos. On regarde. Puis là, je me faisais un fichier intérieur. Tel YouTuber dit de faire telle technique en telle étape. Lui, il fait ça. Parfait. J'achète tout ce qu'il me faut, tous les matériels, produits. Puis je vais tester. Je teste sur mon auto. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parfait. Là, ça fonctionne. OK, maintenant, on part à l'extérieur. On passe au moteur, on passe au mag, on passe ci, ça. Là, quand j'ai tout à ramasser, ce savoir-là, bien là, parfait, on part pour de vrai. Fait qu'on va aller faire, justement, après ça, le porte-à-porte, ça commence à faire. Là, je me pratique sur telle auto. Puis encore aujourd'hui, là, quand je fais un nettoyage, j'apprends toujours des moyens d'être plus efficace. Pas nécessairement plus rapide, mais de nettoyer comme il faut.
Tu apprends toujours des nouvelles techniques. Tu es comme en continuel apprentissage, exact. Parce qu'on peut toujours l'améliorer. Je suppose qu'il y a toujours un outil meilleur qu'un autre. Ouais. Ou que... Fait que c'est une belle histoire entrepreneuriale que tu me dis. Dans le fond, tu étais au début parti pour être police. Finalement, ouais, on arrête ça. Tu t'écoutais beaucoup de vidéos de voitures sur YouTube. On se lance dans le detailing automobile. Ça marche, finalement, là?
Ah, ça marche à fond.
T'es-tu content de ta décision?
Ben oui, mon Dieu. Vraiment, vraiment. C'est fou, là. Tu sais, j'ai dit tantôt, mais quand j'étais jeune, là, moi, j'étais passionné, mais passionné de mon golf. Tu sais, j'allais en vélo là, au golf, là, puis je spottais les voitures, j'y prenais en vidéo. Quand on allait en voyage en Floride, je faisais la tournée des concessionnaires. Tu sais, j'allais faire Fort Lauderdale, Miami, Palm Beach, aller au Lamborghini, au Ferrari, puis je parlais au vendeur, il me laissait m'asseoir dans la Ferrari, puis je capotais. Au salon de l'auto, j'arrivais tout le temps à passer à travers les barrières, les vendeurs Lambo me laissaient l'autre bord, je prenais des photos, je capotais.
Mais t'as toujours eu l'attirance.
Ben oui.
Avec les voitures exotiques.
C'est aucun sens. T'as pas idée, là.
OK, c'est vraiment la voiture exotique, toi, là, ouais, qui t'allume, là.
Tu sais, moi, ma voiture de rêve, là, c'est la R8. Puis là, ça fait 6 R8. Je l'ai fait une avant-hier. Puis là, maintenant, j'ai les chances de conduire.
Les propriétaires, ouais, ils te laissent les conduire? Ouais, ouais. Oh, nice.
T'sais, la dernière fois, la fuite Spider, là, je t'ai dit, ça, je capotais voir la Ferrari. Ben, voilà, une semaine, je suis allé chercher la Ferrari, une F8 Tributo. C'est pas une Spider, mais c'est une Tributo. Je suis allé la chercher chez mon client à Blainville, puis je suis allé apporter à Laval. Fait que c'était quoi? C'était un 20 minutes de char, mais j'étais seul.
C'est plate, hein?
Seul sur l'autoroute avec une Ferrari à, mettons, 650 000. J'ai 20 ans. Débile. Débile. Puis après ça, c'est l'autre.
Tu roules-tu vite avec les chars?
Non. Je fais attention.
Ouais, là, tu vas me dire ça parce que là, on est en.
Non, mettons, non, mais honnêtement, là, c'est.
En toi et moi, là.
Non, okay. Je roule pas vite parce que être un char à 650
000. Non, mais je te comprends tellement. Non, mais tu sais, je t'aurais trouvé cowboy de le faire. Tu sais, pour vrai, tu peux pas. Là, il faut que tu fasses attention. Puis les assurances, encore une fois, j'en ai là-dessus. Tu brises le char, il arrive de quoi?
Non, oublie ça.
Capote, là. C'est une catastrophe. Là, faut pas que ça arrive. Là.
Exact. Mais non, je fais juste attention. Mais tu sais, juste l'expérience de vivre ça, de conduire ça, c'est tellement inspirant, tout ça. Puis de conduire dans la rue, ça, justement, là, deux jours. Tu sais, je fais juste la déplacer, là, mais c'est tellement le fun.
T'es dans le char, tu le conduis, tu l'allumes, tu le sens un peu.
Exact. Fait que non, ça, c'est vraiment génial.
Hey, c'est capoté. C'est vraiment le fun de t'entendre. Puis c'est le fun aussi, tu sais, des fois, de briser un peu la barrière, justement, entre ce que les gens peuvent imaginer de la boto detail. Tu sais, quand on prend pas le temps de savoir le projet qu'il y a derrière ça. Tu sais, ça fait juste 2 ans, mais on entend parler de toi beaucoup, là. Ouais. T'es partout. Je sais qu'il y a eu un reportage sur toi à TVA aussi, il y a quelques mois. Tu sais, là, on fait le podcast ensemble. Mais c'est cool de voir que t'es un tripeux d'auto exotique, je tiens à le préciser. T'sais, c'est vraiment l'exotique qui te fait capoter. Après ça, on se dit, ben moi, je lâche ce que je fais à l'école, je me concentre là-dessus, j'ai vu plein de vidéos YouTube, c'est ça qui m'inspire. Puis à ça, t'en redonnes un peu ça. T'sais.
Ouais.
Et, t'sais, t'en refais toi aussi des vidéos, tu montres de la passion à d'autres jeunes. Puis c'est le cool de voir que si dans le champ philosophique à deux scènes,